L'info de proximité et le meilleur des tubes à Grenoble, c'est RKS.
Chaque jour en Isère, passez en mode RKS.
Le Food Time Show sur RKS.
Bonsoir, bonsoir, amis footballeurs, amis du ballon rond, amis du GF38. Vous êtes bien dans le RKS Food Time Show sur le 97 FM. Comme tous les lundis entre 19h et 20h30, on vous régale au niveau football. Aujourd'hui, on a enfin l'honneur d'avoir avec nous dans les studios notre Suède national, Guillaume Charvier. Bonsoir, Guillaume.
Oh, salut les gars, ça fait plaisir.
Putain, oh là, ça fait du bien de t'avoir avec nous.
Hein. Bah, moi aussi, ça me fait vraiment du bien. Putain, je crois que je suis aux States. En fait.
Mais t'as pas vu 50 Cent là quand on est rentré?
Ah, mais c'est lui en fait.
50 Cent.
Avec la grosse chaîne là.
C'est lui, c'était lui.
D'accord.
Bon, ça va, ma Suède?
Ah, PK, franchement, ça fait plaisir. Ça change de faire l'émission dans
tout
le
seul
garage,
à la maison.
Fond,
ouais.
Bien,
les t'sais. Gosses qui tapent à la porte, qui veulent rentrer.
C'est ça. Et encore, j'ai de la chance, j'ai une femme, elle gère bien, donc, du coup, ça va.
Bon,
ça
bah
va,
écoute,
bon, bisous, ma chérie.
Bon, on l'embrasse, on embrasse toutes, oui. Nos femmes, toutes nos femmes. Nos femmes respectives.
Ouais, non, mais tu peux
pas commencer à foutre le bordel. Bon,
parce
Kevin, comment
Mélanie
ça va?
On a laissé quelques-unes à la Costa Brava.
Bon, Kevin, comment ça va?
Ben, ça va très bien. Écoute, bon week-end de passé, plein de bonnes choses. Et puis, bah, la semaine qui démarre avec vous, avec la Suède en plus qui est là. Quand il m'a dit c'est bon, c'est sûr, j'y croyais plus. J'étais là, j'étais.
On attendait qu'il soit devant la porte, qu'il entre, qu'on voit son visage, et c'est bien lui, je le reconnais.
Et comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Hein.
Ouais,
je peux te dire que c'est bon. Là.
Exactement.
J'en ai dans le caleçon, ça fait plaisir.
Oh là là, on va trop loin déjà. Là.
Non. Écoutez, le programme, justement, on a vécu vraiment un week-end de folie au niveau footballistique. On va parler bien sûr du GF38. Hein. On reviendra sur cette défaite qui m'a énervé. Mais je pense que là, je suis pas le seul à qui elle a énervé cette défaite. On reviendra également sur la Ligue 1 avec, on va finir quand même GF38. Hein, pardon.
Eh oui, bien sûr.
Avec l'instant Narvalo, avec Mecha Bazdarević qui sera avec nous. Donc pas en studio parce que beaucoup pensaient qu'il était en studio avec nous. Mecha, il est encore du côté de la Suisse, ma Suède ou pas?
Alors là, j'en ai absolument aucune idée. Je l'ai eu au téléphone vite fait entre hier et aujourd'hui.
On lui demandera.
J'espère juste qu'il est pas dans les Balkans yougoslaves. Ça passe pas au niveau du réseau. Non, mais normalement, il n'y a pas de souci. Le bon méchant, je l'ai eu un petit peu, il est content.
Et puis, on vous a lancé quelque chose. C'est bien, ça a super bien réagi. Ça, je suis quand même très content. Dans la Suède, comme d'hab, on va lancer notre 11 de légende. On a commencé par les gardiens. Ça a énormément réagi sur les réseaux sociaux. J'ai vu ressortir des noms comme Zingaro. C'est un truc de fou.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
C'est énorme. Il y a des noms énormes qui sont sortis. Je pense qu'il va être un truc sympa qu'on va se faire là sur les prochaines semaines. Ce fameux 11. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur WhatsApp au 04 83 33 97 97. Je répète, 04 83 33 97 97.
Remettre sur les réseaux sociaux le numéro. Je fais une petite publication.
Mais je t'en prie.
C'est bien, Kevin, bravo.
Mais le numéro, mon kiki, c'est quand même important. Et puis voilà, allez, on parlera aussi, parce que ça, on ne pouvait pas le rater avec ce qui s'est passé hier, cette fessée monumentale qu'a mis Liverpool à Manchester United. On reviendra sur l'avenir de Solskjaer, parce que moi, je vous dis tout de suite, je suis Solskjaer, hier je vais en conférence de presse, je pose ma démission si j'ai une figure.
Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont des figures dans ce milieu.
Ils aiment l'argent surtout à un moment donné, c'est délicat.
Bah, disons que s'il est licencié, je pense qu'il a plus à y gagner.
On est bien d'accord. Et puis on reviendra sur ce geste de Cristiano Ronaldo. Il a joué le ballon. Il a joué le ballon, les gars.
On peut jouer le ballon et on peut le pas jouer.
Il a joué le
ballon. On peut tout jouer d'un coup aussi.
Particulièrement, mais
en tout cas,
il a joué. Allez, on va démarrer tout de suite, bien sûr, avec notre rubrique GF38 et le débrief du match de ce week-end. A tout de suite sur RKS 97 FM.
Tous ensemble avec le GF38.
Ah, qu'il est bon ce son de tes amis rapaces, moi, ma Suède. Hein. Ça rappelle des souvenirs. Hein.
Grave.
Et ouais, ça fait RK, vous le savez. Le GF38 joué ce week-end. Et malheureusement, ma Suède, on va revenir sur ce match. Défait 2-1 du GF38. J'y ai cru. J'avais de dire un début de match idyllique. Qui aurait cravé et couvre le score. qui rend hommage à son papa, hein, parce que c'est, on va saluer, hein, l'hommage qui a été fait à Michel Ravet dans les tribunes de la part de la tribune Ouest.
Bah, très bien, oui, c'est sûr. C'est Michel, c'était quelqu'un qui était déjà très apprécié, et puis c'était, en plus d'être un supporter, c'était un ancien de Nordcap, tout le monde le sait. Papa d'Yorick, papa de Jus, Rudy, et puis Émilie, merci. Très bel hommage, on s'y attendait de toute façon. Et puis Yorick, j'ai trouvé en plus qu'il a fêté son but d'une façon très pro, très calée, très posée. Du Yorick dans l'âme, en fait. Et c'est toute la famille Ravet qui est comme ça. Et moi, j'ai un très grand respect de toute façon pour cette famille depuis très longtemps. Et ça a fait très très plaisir de justement que Yorick ait pu dédicacer ce but à son papa. Bon, malheureusement, comme tu l'as dit, on repart avec 0 point dans la musette. Mais bon, techniquement... C'était plus fort. C'était plus fort, ça allait plus vite, plus de pressing côté Dijonais. Donc moi, j'ai envie de te dire défaite logique. Défaite logique sur l'ensemble du match, même si on avait plutôt bien démarré. Et bon, qu'est-ce que tu veux dire de plus ?
Qu'est-ce qui a manqué pour toi ? J'ai vu le match en entier. Hein,
je pense que c'est de la qualité, honnêtement.
Tu sais quoi ? Je crois que c'est exactement le mot que j'allais dire. J'ai trouvé une faiblesse technique chez nos joueurs, mais qui m'a accablé.
Bah après, c'est compliqué. Moi, c'est ce que je dis déjà depuis plusieurs semaines. C'est quand au milieu de terrain, déjà, tes milieux centraux ne sont pas des milieux qui sont des créateurs dans l'âme, mis à part Florent Michel qui essaye de... Voilà, qui fait comme il peut à chaque fois. Le manque de Manu Pérez se fait quand même vachement ressentir au milieu. Donc là, tu joues avec Bambock et Cissé, bon, qui restaient sur des bonnes rencontres quand même. Mais voilà, quand tu tombes face à des mecs qui, comme Benzia, comme Jacob, qui sont des mecs qui sont techniquement très forts.
C'était très fort.
Benzia, on l'a vu, il va à 2000 à l'heure. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. En plus, ça n'engage que moi, mais je trouvais qu'on défendait en reculant. Donc au bout d'un moment, si tu vas pas directement sur le porteur du ballon et t'essayes pas de casser cette action déjà dès le milieu de terrain, quitte à te prendre un jaune, ça devient compliqué.
Bah, tu te mets en difficulté.
Bah, là, on était plus qu'en difficulté. Donc là, on a fait une bonne première mi-temps quand même dans l'ensemble. On va pas trop se plaindre. On n'a pas frappé beaucoup au cage. Moi, c'est ça qui m'a dérangé. C'est que par rapport aux dernières rencontres, on tirait quand même plus. Là, c'était plus compliqué.
Là, on a été inoffensif.
Ouais, on va dire ça quand on va dire ça comme enfin, ça. Je crois qu'on a un tir cadré dans le match.
Pour moi, justement, c'est ce que tu dis. Ou sur les derniers matchs, on avait vu que on avait un peu plus mis de l'avant, on a arrivé un peu plus à tirer au cage. Là, on n'a pas réussi. Je nous ai trouvé inoffensifs, je nous ai trouvé faibles, un peu retombés dans nos travers des.
Ouais, je sais
y a,
pas.
Il y a 2-3 mois.
Ouais, non, faut pas. J'irai pas jusque là parce que pour moi, c'était la grosse question. C'était est-ce que Dijon. Le fait d'avoir changé d'entraîneur, est-ce que Dijon va redevenir cette équipe de Ligue 1 ?
Pour moi, ils n'ont rien à faire en fond de classement.
Bah moi, je les trouve. Honnêtement, j'ai trouvé une équipe.
Mais ils ont très mal démarré, hein.
Bah ouais.
Mais moi, j'ai trouvé une équipe plutôt pas mal, plutôt cohérente. Les mecs, offensivement très fort.
Individuellement, ils ont des joueurs. Je disais Benzia, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'en entendait plus parler là.
C'est pas un joueur qui doit jouer en Ligue 2 là, niveau Ligue 1, je pense.
Non, je pense que voilà, c'est. Et Jacob, je reviens sur Jacob, c'est pareil. Ça, c'est un joueur, combien de fois on en a entendu parler à Grenoble ? Quand il joue à Annecy, je crois
que c'était Annecy. Quand il joue à Annecy.
Un mec, on l'a jamais pris. Bon, on va pas tergiverser.
Il y a aussi Michael Le Bihan.
Ça, c'est des mecs qui ont.
Qui sont aguerris déjà.
Voilà, qui sont aguerris, qui ont de l'expérience. Après, Jacob, il joue à Niort, par exemple. C'était un joueur. Voilà. Mais bon, voilà. Moi, j'ai trouvé Dijon largement au-dessus. Et voilà. Donc, après, peut-être qu'on aurait mérité un match nul, effectivement. Quand on entend le coach parler, il dit ouais, ça aurait été.
Ah, je sais pas.
Voilà, après, parce que dans l'envie, on peut pas dire qu'on n'est pas en vie. Voilà. Après, ce qui est bête, c'est que sur ce match-là, on aurait gagné ou on aurait même ramené un point. On passait sur la première moitié du tableau. Et
puis
là,
on restait sur une dynamique, voilà, au Stade des Alpes.
On était bien.
Et une spirale positive par rapport aux résultats sur les 6 derniers matchs. Moi, ce qui m'a plus inquiété, je vais te dire franchement, c'est que je n'ai pas trouvé de cohésion collective. Dans le jeu, hein, je te parle.
Ouais.
J'ai trouvé que chacun avait fait les efforts. J'ai pas trouvé que des joueurs avaient lâché ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas trouvé ce collectif qui allait chercher, qui allait de l'avant, qui allait essayer de bousculer cette équipe de Dijon. J'ai pas trouvé.
Ouais, après, voilà, il y a des matchs avec, il y a des matchs sans. Mais bon, je te dis, pour moi, ce qui a fait la différence, c'est la qualité.
Mais il y avait un écart de niveau. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que c'était assez flagrant, hein, parce que quand je crois que Dijon a fait Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont fait plus de 20 tirs, quoi. Enfin, je veux dire, c'était impressionnant. Moi, je trouve qu'il y avait un écart. J'ai l'impression qu'on s'est fait manger dans tous les compartiments, presque. Alors, on a essayé, hein, mais enfin, c'était. Je pense que, comme vous l'avez dit au départ, hein, y a pas grand chose à dire de cette défaite, parce que quand l'autre est plus fort, ouais, je sais pas. Ça peut finir top 5 de Ligue 2 si ça continue
mais
comme
là,
ça à Dijon.
La façon, c'est ce qu'ils voient, la différence. Je ne vais pas parler de Dijon parce qu'on est là pour parler de Grenoble surtout, mais ils avaient David Linares qui était un mec qui était plutôt tranquille, posé. Voilà, le mec n'allait pas péter une gueulante.
Ils ont pris l'opposé avec Patrice Garande.
Là, ils ont pris l'opposé avec Garande. Moi, je te garantis que ça fume dans les vestiaires, c'est sûr.
Mais est-ce que c'est pas ce qu'il leur fallait ? Certainement.
Certainement à Dijon. Après, c'est ce qui nous fait du mal aussi. C'est qu'ils sont en plein renouveau. Ils sont en plein. Voilà. Bon, voilà. Bon, ce qui est dommage, voilà, effectivement, c'est qu'on a loupé notre match. Maintenant, voilà, tant pis. Et puis qu'on casse aussi un peu cette dynamique qu'on avait au Stade des Alpes à la maison. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, je pense que les joueurs en ont conscience. Et moi, je sens du positif. Ça va, voilà. Ce qui fait chier, c'est qu'il y a un gros match qui arrive contre Caen. Là où on aurait pu gagner des points contre des équipes, on va dire, un petit peu plus faciles au début. Voilà, peut-être qu'on va le payer un petit peu. Bon, voilà, faut rester dans cette dynamique-là. Et puis voilà, on va récupérer Manu Pérez dans pas longtemps. Donc, on va espérer que les blessés aussi, ça s'améliore.
C'est ce que j'allais dire. Il y a l'infirmerie qui est quand même assez chargée. Il y a des retours, il y a des mecs qui ne sont pas encore prêts. Il y a quelque chose, moi, qui me turlupine toujours, c'est que j'ai l'impression que ça fait bientôt 3 mois qu'on attend cet attaquant qui doit arriver, on le voit pas arriver.
Non, grand attaquant.
Il arrivera pas tout de suite, ça c'est une.
Et on a toujours ce gamin qui flambe en réserve et qui n'est pas pris. Je parle de le petit Sofiane Belkheir, hein, qui a encore marqué un doublé ce week-end en réserve.
Ouais, je pense qu'en réserve, effectivement, il y a 2-3 mecs qui peuvent avoir le mérite d'être essayés, du moins. Bon, après, Belkheir, il est jeune encore. C'est un pari sur le temps. Peut-être qu'il y a des mecs un peu plus aguerris comme Gourgan qui peuvent voilà, au moins essayer de gagner quelques minutes en pro et qui peuvent pourquoi pas tirer leur épingle du jeu, être une excellente surprise. Gourgan, je ne sais plus quel âge il a, 27 ans, je crois.
Ouais, c'est un 80. Je crois que c'est un 92.
Donc tu vois, t'as pas la même gamberge à 27 ans qu'un gamin de
19
ans qui sort de centre de formation.
Comme Cissé qui est recruté pour 30 ans, hein, Cissé, hein, faut le savoir, il a pas de contrat pro et rien, ça fait 2 matchs qu'il est titulaire.
Ouais, voilà.
Il a été recruté pour la réserve et finalement ça match.
Après, il faut essayer. Moi, après, c'est les choix d'entraîneur. Hein. Après, c'est toujours facile pour nous amateurs de dire faut faire ci, faut faire ça, etc. Moi, c'est dommage. J'aurais bien effectivement un mec comme Gourgan qui est du cru. Qu'est-ce que t'en as à faire, 26, 27 ans, le mec, fait lui faire une apparition, 2-3 apparitions.
20 minutes, 25 minutes, juste pour voir.
Tu vois ce qu'il vaut. Et puis après, tu verras bien. Il y a des mecs, ils ont percé sur le tard. Hein. Regarde Eric Carrière, par exemple. Eric Carrière, je sais plus, à 28 ans, je crois.
T'as des joueurs comme ça, et puis surtout en Ligue 2.
Est-ce que c'était pas le mauvais moment aussi pour mettre Gersbach défenseur central? Parce qu'il était dans la défense à 3.
Ouais, mais je pense que tu fais un peu. Là, il a fait un peu du bricolage comme.
Ouais, je pense qu'il n'avait pas trop de choix. T'as Loris Nery qui est forfait juste avant le match.
Pourquoi il joue à 3 derrière là?
Parce que je pense qu'il a voulu garder son schéma tactique des derniers matchs. Je pense que c'est ça.
Ça allait un peu mieux ces derniers temps avec sa défense à 3, on l'a vu. Après, ce qui est dommage, c'est que dans l'impact physique au milieu de terrain, on s'est fait.
On s'est fait manger.
On s'est fait dévorer.
Flo Michel qui a un peu sorti son épingle du jeu, je l'ai trouvé.
Il a fait ce qu'il a pu.
Il a fait ce qu'il a pu, mais il n'est pas épaulé. C'est vrai que le retour de Manu Pérez va faire énormément
bien.
Oui,
c'est sûr.
On va pas se leurrer.
De toute façon, à part Maubleu, qui a sorti quand même un peu deux, trois actions chaudes. Et peut-être un peu Ravé qui est.
Ouais, j'ai trouvé Yori Cassé, voilà, il a brassé, il a fait.
Il bouge comme il fait, il essaye de faire un peu comme il peut, quoi. J'ai pas trouvé le restant des joueurs, du moins assez haut niveau. Voilà, moi, c'est ce que je trouve. Et je le redis, ils nous ont pressés. À chaque fois qu'il fallait défendre, on a trop reculé. On recule.
On a joué très bas.
On le voit sur le but de Benzia, de toute façon. Hein.
Bah, c'est à dire, on est 4 sur lui, il faufile tout le monde.
Et je comprends même pas. Enfin, regarde, nous, quand on a joué en foot amateur, hein, la première chose qu'on nous disait, c'était.
Cadrer.
Le mec, tu cadres ton porteur.
Porteur
certes,
du ballon.
Mais par contre, le mec, s'il commence à partir de son milieu de terrain,
tu dois le stopper.
Il commence à dribbler, en plus, un mec comme Benzia, la plupart
du temps.
Vous avez
vu d'où il est parti. Hein. Il est parti de son camp, il a fait 60 mètres avec le ballon, quand même.
Ouais. La plupart du temps, il y a une guibole qui saute. Hein.
Non, mais je pense qu'à un moment donné, c'est sur ce match-là, tu vois, je les ai trouvés. Ils avaient de l'envie et tout ça, mais il y a manqué un peu d'agressivité positive.
Ouais, certainement. Après, il faut, faut garder le voilà, faut se dire que voilà que c'était un c'est un match où on va tirer des leçons et puis que on va aller à Caen avec avec la rage aux dents et puis qu'on va essayer de récupérer quelque chose. De toute façon, faut être positif. Autant j'étais très sceptique en début de saison que là, moi, je trouve quand même qu'il y a des bonnes choses.
Moi, j'ai vu un groupe qui n'était pas énervé, qui était plutôt serein, ouais. qui savait qu'ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait, mais qui n'était pas dans le déni, dans le se dire « ouais, on va jamais y arriver ». Pas du tout, je les ai trouvés. Voilà. Je suis rassuré par rapport à leur réaction.
Je pense que le groupe vit peut-être un peu mieux avec le staff, avec surtout le coach. Ces derniers temps que ce que ça a été au début parce qu'il y avait quand même pas mal de changements tout ça donc c'était un peu compliqué. Là j'ai l'impression que c'est quand même un peu mieux donc il faut surtout pas lâcher. Après il y avait un peu plus de monde au stade, c'est dommage parce que tu vois
on est monté à 5005 là, c'est bien,
une petite victoire,
la tribune famille était pleine à signaler, ils ont fermé les ventes de tribune famille, ça fait plaisir quand même.
C'est d'ailleurs un point que je voulais souligner parce que du coup je trouve que la com a été
était très bonne,
sympathique. Donc big up à mon pote
et,
Alex.
Et je vais vous dire franchement, big up sur la com avec Mounir de valider.
Moi ça m'a.
Mais grave.
Ça c'est grave. Le coup de com pour le GF38 avec Mounir de valider.
De Mounir ou d'Adel? Adel Ben Sherif.
Adel Ben Sherif, mais qui est Mounir dans la série validée, pardon. C'est pour ça, les auditeurs ils connaissent plus. C'est énorme ce qu'il a fait.
Magique.
Vous l'avez vu, il casse la porte, il ouvre la porte. Ouais. Alors bande de narvalo. Mais c'est énorme.
Mec est de Villeneuve, hein.
Le mec a grandi à Villeneuve, moi je savais pas non plus, et il est parti à l'âge de 22 ans à Paris tout seul comme ça, comme un narvalo, c'est ce qu'il veut dire, et il allait se construire là-bas. Mais non, c'est un énorme coup de com, que bravo au GF38, parce que quand on sait les moyens qu'ils ont au niveau com, Alexis Sand il est tout seul sur ce point-là.
Il est un peu aidé aussi, mais c'est vrai qu'Alex il fait un sacré gros boulot, et ça a le mérite d'être souligné quand même.
C'est une bonne chose. Allez, écoutez, je crois qu'on... ça joue cette semaine, hein, ma Suède.
De quoi ?
Ça joue en Ligue 2 là encore cette semaine.
Ça joue
ce soir déjà.
Ça joue ce soir. Il y a Auxerre qui joue ce soir et je pense qu'il faut qu'on aille.
Appelez le Guillaume.
C'est moi j'aimerais aussi parler de ce match du lundi en Ligue 2. Faudrait à un moment donné qu'on fasse quelque chose. Je n'arrive pas à comprendre les chaînes de diffusion qui choisissent ce match de lundi, parce que je trouve que c'est un match qui n'est pas regardé.
Il n'y a personne qui joue en plus, c'est pour ça que c'est...
Pourquoi ce choix ?
Ils essayent de se démarquer.
Il n'y a personne qui joue ce jour-là. Il n'y a pas de Ligue 1, il n'y a pas de Première Ligue, il y a un match de Liga espagnole.
Quels sont les supporters que tu vas aller chercher qui vont regarder la télé ? Franchement.
Je sais pas, il y a quoi le lundi soir à la base?
Joséphine Ange Gardien. Non mais c'est ça, mais on rigole, mais c'est ça.
Il n'y a pas Maigret ou...
Mais certainement, il doit y avoir...
on est dans les années 90, les
gars. Mais non, mais c'est ça, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose comme ça.
Il y a Tom Sawyer sur Google.
Pour les patrouilles.
C'est les vacances. Non, mais c'est pour ça, je pense qu'il y a plein de choses à avoir. Messieurs, on va passer à notre deuxième rubrique, on va appeler Mehmet Mecha Bazdarević, coach... bosniaque, il faut le savoir, de Bosnie-Herzégovine, qui est un des seuls coachs à nous avoir fait monter en Ligue 1, on ne pourra jamais l'oublier.
Et ça, c'est sûr.
Mecha et Stéphane Gilly, hein, son adjoint. On va passer le téléphone.
Non, pas celui-là.
Pas celui-là.
Non. Il faut que Suède se lève, prenne le téléphone. Oui, et prenne le parce que je ne connais pas le numéro, moi, de Mecha.
Ah, bah oui, on va le donner en direct.
Ceux qui veulent appeler Mecha, il cherche d'ailleurs, hein. On en parlera peut-être avec lui, hein. Il cherche un poste.
Ouais, il cherche un poste là. Ouais.
Il est sur quelques pistes certainement.
Je lui ai proposé le FC Pont-de-Clé et il n'a pas voulu. Non.
Non, mais pourtant il y a des belles infrastructures. Hein.
Ouais, mais... C'est clair.
En plus, on sait que ta maman peut faire des dépannages de nounou éventuellement.
Laissez ma mère tranquille.
Non, mais t'as proposé. En off, on vous fera vivre aussi le RKS Foot Time Show en off.
Vous pensez que l'émission est dingue, vous n'avez pas vu le conversation.
Je ne vous conseille pas.
C'est toujours pareil. Les absents ont tort. Vous pensez que Mathieu Science, il est politicard et tout, il parle comme il faut, je peux savoir, c'est un sale. C'est un gros sale. Il est sale.
Les absents ont toujours tort.
Il est sale. Non, mais c'est
Mathieu,
la
je dis rien moi.
C'est Samir, je peux rien dire, c'est compliqué.
Je vais pas
m'embrouiller avec Samir.
Tu veux pas m'embrouiller avec Samir, c'est pourquoi.
Voilà,
tu te retrouves avec un œil au beurre.
Voilà, c'est pour ça. Bon,
Samir, si tu nous écoutes, la bise.
On salue.
Mais grave. Mais grave.
Allez à sa salle de sport TSB qui est juste à côté du Quick. Allez Chirol, allez dans un instant. On va bien sûr accueillir Mecha Bazdarević et parler avec lui
Il y a Mathieu qui a réagi sur la conversation.
Oui, mais c'est comme ça. On va vous faire vivre, je vous assure. On va vous faire vivre le off du RKS Footin Show. Je sais même pas ce qu'il a dit, mais je pense que ça s'appelle du n'importe.
Race de mort, c'est la guerre.
Vous voyez. Mais le pire, c'est qu'en plus, le mec, il nous dit qu'il est débordé. Et patati et patata, il nous fait son cinéma la semaine dernière. J'ai 15 blessés.
J'adore. Franchement, c'est vrai. Il faudrait les screener toutes.
Au bout d'un quart d'heure.
Moi, je vais les screener.
Non, attends, au bout d'un quart d'heure, son gardien, il se fait expulser. Il gagne 4-1 contre chez Chirol. Et il nous fait un cinéma pas possible. Et là, ça reste de mort. Il nous dit j'ai les enfants, les machins. Et il est en train de nous écouter à la radio.
On lui avait dit de pas faire jouer la nounou. Et la nounou, elle s'est cassée la jambe.
La nounou, elle s'est cassée la jambe. Mais il ose nous dire quand même, elle en a pour 2 semaines. Elle en a pour 6 semaines, la nounou. Arrête au cinéma. Bon, allez, on va se concentrer sur le KSFM Touch Show. Parce que vous êtes sur le 97 FM. C'est la vie entre 19h et 20h30. On embrasse bien sûr Mathieu Sciancy.
On l'aime, Mathieu Sciancy.
On l'aime, c'est le meilleur. Franchement, il a une répartie qui est.
Mais
ça, c'est sûr, on fait que ça. Ça s'appelle du cirage de pompe monstrueux, je peux vous assurer. C'est beau ce qu'on fait. Allez, dans un instant, on accueille Mecha Bazdarevic. Pour parler bien sûr avec lui du GF 38 et de cette magnifique époque qu'on a connue. Allez, tout de suite dans l'instant, Narvalo, c'est parti dans le RKS Food Time Show.
RKS Food Time Show, l'instant Narvalo.
Le RKS Food Time Show,
l'instant Narvalo.
Et oui, l'instant Narvalo, le RKS Food Time Show qui va accueillir dans un instant, si tout se passe bien, Mecha Bazdarevic, mon Kevin.
Non, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, tu vois, regarde, on est en train de faire le 11 de légende, etc. Un entraîneur de légende, c'est peut-être pas, bon, on peut en citer d'autres, mais bon, il fera quand même peut-être partie.
On peut peut-être parler d'Alain Michel, peut peut-être parler de ces gens-là, mais il y en a pas beaucoup. C'est quand même un coach, faut le savoir. Il a eu un parcours professionnel français. Il a joué 308 matchs avec Sochaux.
Ouais,
il a aussi entraîné Sochaux. Il a entraîné Grenoble. Il a entraîné le Paris FC. Il a entraîné l'En Avant Guingamp. Il a entraîné l'équipe nationale de Bosnie. Donc c'est quand même un coach qui restera vraiment dans l'ère du GF 38, et ça c'est assez exceptionnel. Il a été épaulé bien sûr par Stéphane Gilly, hein, son adjoint de toujours. Ça restera un homme vraiment exceptionnel qui a pu d'ailleurs, je suis en train de penser, dans notre 11 de légende, on rajoutera à la toute fin le coach de légende du GF 38, hein. On vous le rappelle parce que on vous a demandé sur les réseaux sociaux de nous parler de délire, justement, on peut dire entre guillemets, votre meilleur gardien. On va faire ce 11 de légende. On a commencé par les gardiens. On va ce soir.
Ne raccroche pas.
Tu raccroches pas, surtout pas. Voilà. Est-ce que là, tu n'entends plus rien normalement? C'est bon? Eh ben allez, voilà.
Ah. C'est parti. Il arrive, il est là.
Il est là. On peut raccrocher.
Voilà.
Là, je peux vous dire, c'est un moment assez énorme puisqu'on a avec nous Mecha Bazdarevic. Bonsoir, Mecha.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, coach.
Mecha, quel plaisir d'entendre votre voix.
Mais grave.
Bah, écoutez, c'est un plaisir aussi, c'est pareil. Pour moi, dès que j'attends quelqu'un de Grenoble, je vous dis honnêtement, c'est un grand plaisir de vous attendre.
Vous,
oui, merci.
Vous garderez toujours un souvenir énorme de Grenoble, de toute manière.
Bah, oui, vous savez, après, c'est facile de parler parce que les choses, enfin, ça s'est très, très, très bien passé. Et mon passage à Grenoble. 3 ans et demi, et voilà, quoi, on a vécu des bonheurs, on a vécu des joies, on a vécu aussi des tristesses, beaucoup d'émotions, et je pense qu'on a fait des choses ensemble, vraiment, je vais pas dire grand, mais important pour les clubs et pour les villes, les régions, et pour ça, franchement, quand on parle de Grenoble, il y a beaucoup de choses qui traversent ma tête, et surtout beaucoup d'émotions, et puis beaucoup de souvenirs qui sont, pour être un peu poète, rester gravé dans vraiment ta vie.
Ouais, je pense que
c'est exactement.
C'est quand même un passage de votre carrière d'entraîneur après on va dire aussi Sochaux dans la ville où laquelle vous avez été un joueur exceptionnel qui est importante, mais dans votre vie d'entraîneur, il y a ce passage au GF 38 quand même qui vous marquera, mais qui nous marquera aussi.
Ben, c'est vrai, je pense qu'on a fait ensemble, hein, vous savez, moi j'ai vécu d'un moment très très fort avec les supporters, avec les gens qui travaillent au club, avec les staffs, avec les staffs médicaux. Et franchement, même aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années est passé, j'ai mes amis et José Angelo et Anne et tout le monde. Et puis voilà, c'est... je faisais une partie de vie assez importante dans cette ville. Voilà. Et chaque fois que je reviens avec beaucoup de plaisir.
Et justement, Mécha, quelle est votre actualité du moment ?
Ben actuellement, je ne travaille pas.
D'accord, parce que vous aviez quitté l'An Avant Guingamp.
Oui, j'ai eu un projet, allez, disons, important de partir à Turquie dans un bon club.
Ah, c'est une bonne info, ça.
Malgré que j'étais en attente pendant 3 mois.
D'accord.
J'ai un petit peu basé tout sur cette proposition. Finalement, ça ne s'est pas fait. Puis après, j'ai plus énormément de, pour être honnête, propositions.
Bien sûr.
Puis voilà, je suis à Sochaux, je bouge à gauche, à droite, je me propose et j'attends.
Vous attendez la bonne opportunité.
Une opportunité voilà, de travailler parce que j'ai envie de vraiment encore de bosser. Et puis j'espère que ça va pas tarder. Voilà, je suis à Sochaux, j'attends, puis je bouge un petit peu à gauche, à droite. Et je regarde ce qui se passe, Ligue 2, Ligue 1, dehors de France. Voilà.
Non, mais vous allez retrouver, coach, ça c'est pas un problème. Je pense que tout le monde a.
Sinon, je vais travailler avec vous. Hein.
Avec grand plaisir.
Tout le monde a conscience de vos qualités. Hein.
Ouais, merci.
Moi, il faut le dire. Moi, j'ai passé d'excellents moments moi, avec Mécha et Stéphane, outre les années de Ligue 1. Mais on s'est côtoyés aussi un petit peu en dehors et lors de petits repas, etc. Mécha et Stéphane, je les ai vus il n'y a pas si longtemps que ça au Mans, lorsqu'ils étaient avec le Paris FC. Et c'est des gens, ils ont le cœur sur la main. Et j'étais avec des jeunes que j'ai emmenés au stade. Et la première chose que Mécha, il me dit, viens manger avec tes enfants, viens manger avec les gamins, avec lequel t'es avec nous et tout. Donc voilà, Mécha, c'est le cœur sur la main, c'est un mec en or pour ça.
Justement, est-ce que ça fait partie de votre... Parce que moi aussi, moi qui étais sur une autre radio avant, je vous ai suivi, Mécha, est-ce que ça fait partie aussi de votre ADN ? J'ai l'impression que vous êtes un homme proche mais tant du club que des gens qui y travaillent, mais du plus bas au plus haut des joueurs, vous avez ce relationnel qui pour moi est magique.
Et vous savez, moi depuis 9 ans je suis dans le football et je pense que le football c'est quelque chose où il faut être généreux, il faut être aimé, il faut partager. Et pour ça quoi, moi dès que j'arrive dans une entreprise de football, dans une club, voilà, j'essaie de tout de suite savoir un petit peu avec qui je vais travailler. Et puis voilà, ensuite, je m'intéresse à tout ce qu'ils font, comment ils vont en famille, quand il y a des moments difficiles. Après, voilà, quand il faut être dur, il faut être dur, mais aussi, il faut donner tout ce qu'on a dans la ventre. Comme ça, j'ai fonctionné avec mes joueurs, avec les staffs, avec l'entourage, mais même avec supporters. Et peut-être, j'ai pas fait ce que peut-être j'aurais pu le faire, parce que j'étais... Je suis honnête et sincère avec les gens avec qui je travaille et avec le métier que je le fais. Et voilà, je me donne à fond, je suis un taré de football, de travail. Et voilà, pour ça, j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien partager, j'aime bien de vivre les bons moments, mais aussi des moments qui sont difficiles, mais avec les gens tout simples, voilà, quoi, qui travaillent au stade, jardinier, jusqu'au président. Voilà.
Non, mais c'est tout à votre honneur. Vous avez été le deuxième coach, hein, on va dire le premier coach de l'RGF 38 à faire monter ce club en Ligue 1. Est-ce que ce match de la montée au Stade des Alpes qui était exceptionnel, est-ce que ça reste un des souvenirs de votre carrière les plus mémorables ? Vous étiez en larmes, Mécha, ce jour-là.
Ouais.
Je me rappelle.
Disons qu'au Stade des Alpes, il y avait plus de monde qu'à Istres ou ailleurs, peut-être.
même là, quand on parle, vous savez, c'est vraiment ça revient. Vous savez, j'ai vécu finale Champions League quand j'étais à l'Étoile de Sahel. J'ai vécu avec l'équipe nationale comme joueur. Mais je pense que c'est un moment, vous savez, parce que si vous pouvez voir l'image, le stade, il était
plein.
Un état exceptionnel, les joueurs... Et pas seulement les matchs de montée. Je pense qu'il y a quand même une anecdote. Nous, on a joué 12 journées avant la fin. On a joué à Nantes. Et on fait un super match, mais on perdait.
Ouais. Effectivement.
Et on était 12 points de éventuellement au jeu de montée. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce que... Ça ne m'a jamais arrivé. J'ai un sentiment que... voilà, un truc que jamais eu. J'ai dit, écoutez, messieurs, si on joue comme ça, on va monter.
Tu l'avais senti?
Donc il m'a regardé, il a dit, mais celui-là, il est... Mais c'est 12 journées avant la fin. Et là, on rentre au stade les Alpes. Et là, les joueurs s'est transcendé, on a fait des matchs exceptionnels, on a eu un petit peu de chance que Troyes, ils étaient en train de perdre les matchs, mais après, vous savez, comment vous pouvez oublier là, ce qu'on a vécu, quoi.
C'est des moments magiques. C'est des moments magiques,
voilà, avec les...
Et puis on avait
comme Nassim, comme Greg, comme...
Ouais, voilà, on avait des sacrés joueurs aussi.
Les gars, derrière, c'était...
On avait des bonhommes, si je peux me permettre, coach. On avait des joueurs de caractère aussi avec nous. Et c'est vrai que bon, moi, pour me remémorer tout ça, d'ailleurs, ça me fout des frissons. Rien que d'en reparler, d'entendre le coach le dire.
Oui, vous savez, c'est les coachs, c'est important. Franchement, on s'est investi, on s'est donné, mais staff. Mais je pense qu'on a eu des mecs exceptionnels, le dire. Greg Van Bee, Nassim... mais tout le monde, j'ai oublié, je ne peux pas me rappeler de tout le monde. Biagi Kamisoko, un jour, il m'a dit, mais coach, vous savez, on ne peut pas monter. Pourquoi ça arrive à tout le monde? Je dis, mais Biagi, ça va arriver à nous cette année.
C'est énorme.
Magnifique.
Ouais, c'est génial.
Il y a un joueur qui vous a marqué ou une personne au GF38, coach?
Ouais, vous savez, on a une équipe de caractère. Et c'est l'équipe qui m'a marqué. Mais après... Mais comme Nassim, quoi, c'est cette simplicité, cette gentillesse, cette qualité.
Ouais.
Je me suis dit, putain, ce mec, il devait jouer chaque jour à Ligue 1 et il y avait d'autres, quoi. Greg Van Bee à 37 ans, c'est sérieux.
Non, mais c'était un sacré mec aussi, quand même.
Mais vous savez que Nassim Akrour, coach, joue toujours à Chambéry en attaquant.
Ouais, c'est de temps en temps au téléphone. Après, il y avait des jeunes qui venaient, comme Yurik, comme... Brice, comme d'autres.
Effectivement. C'est vous qui avez lancé Yorick, hein, d'accord, d'ailleurs,
ouais,
coach. Hein.
Ouais.
Je m'en souviens très très bien, alors qu'il était...
À Sochaux.
Oui. Il était alors, de mémoire, il était U18, je crois, et il jouait même pas en équipe 1, je crois, en U18. C'est vous qui le faites venir.
Il y avait un petit peu de soucis, mais vous savez, c'est pas... Parce que c'est un garçon, il a des plein de qualités, quoi.
Bah, on le voit encore, là, il joue au club.
Non, parce qu'on a, vous savez, on a pensé aussi aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, même Taider, même tout ça.
Saphir Taider.
Latéral gauche, je ne sais pas comment il s'appelle.
Jimmy Mainfroy, non?
Il y avait Attila Turan, c'est ça que vous parliez?
Jimmy, c'est ça. Là, c'est super le mec.
Il y avait Francis Nzanga.
C'est facile de parler parce qu'on a vécu des moments, même quand c'était terrible, quand on a descendu, mais ces mecs, ils n'ont jamais lâché, ils ont toujours travaillé, sérieux. Voilà, quoi. Pour ça, c'était un passage dans ma vie, pour moi, c'est mémorable. Et puis ça va rester, quoi. Vous savez, ça va rester toujours.
Vous savez, coach, on retient même pas ce qui s'est passé après. On retient que les bons moments. Parce que moi, ce qui s'est passé après, vous avez vécu des moments pas simples avec la chute du club, entre guillemets. C'est même pas resté dans nos mémoires.
Oui.
Oui, après, vous savez, même là, on a pas lâché, on a tout fait pour que ça reste derrière les choses, je dirais, propres au niveau du travail, au niveau de l'organisation, au niveau des clubs. Voilà, après, vous savez, dans la vie, c'est comme dans la vie, quoi. Il y a des moments où... Mais je pense qu'on aurait pu éviter tout ça, mais il y avait tellement de choses, comme c'est, on va pas parler trop, il y avait des jalousies autour.
Ça devenait malsain à un moment donné.
Ben, je pense qu'après, on ne savait pas, les Japonais, ce qui reste, et les autres, ils voulaient récupérer. Et, vous savez, après, c'était pas dans le domaine d'entraîneur. Et
dans le domaine du sportif, je parle en connaissance de cause.
Ça va être compliqué, mais je pense que même en descendant Ligue 2, ça aurait été, je dirais, plus sage de s'organiser différemment et peut-être de revenir plus vite, de ne pas plonger les clubs pendant 4-5 ans. Voilà, après, c'est... Mais restons dans les choses qu'ils étaient
plus belles. Quoi. Ouais, effectivement.
Et justement, coach, quel regard vous avez aujourd'hui sur l'équipe du GF38, un club qui s'est reconstruit en 4-5 ans, qui est remonté en Ligue 2 et qui aujourd'hui, vous avez affronté dernièrement avec le Paris FC, avec l'En Avant
Gagnant. On a gagné, hein.
C'est... coach, par contre.
ça, par contre, c'est pas bon. C'est pas bon, coach.
De toute façon, moi, je disais, aujourd'hui, je vais le gagner. Même Gagne.
Dans tous les cas, vous allez gagner le match.
Non, vous savez, il y a changement, il y a beaucoup de joueurs. Enfin, vous savez comment ça a changé. Cette année, même staff, ça a changé. C'est les gens, je pense, très très sérieux qui sont là. Bien sûr, les coachs, ils arrivent dans un autre pays. Voilà, c'est un peu période de départ. C'était assez compliqué, mais je pense que l'équipe il est en train de monter. Ah, dommage, dernier match là, qui gagnait, puis après ça ils perdent contre Dijon, mais je pense que c'est je me fais pas de soucis. Il y a des très bons joueurs, il y a des jeunes, il y a des quelques anciens. Je pense que avec les travails et tous les staffs et surtout les clubs, les supporters, ils sont toujours fidèles. Je pense que moi, je ne me fais pas de soucis pour les GF38, malgré, je pense, ça va être une saison assez difficile.
Ouais.
Il faut être prêt pour ça, et puis voilà, après, pour préparer peut-être derrière quelque chose de plus important, quoi. Mais je pense que le club il grandit. Il a vécu un moment très, très compliqué. Il grandit. Et puis, moi, bon, j'aimerais bien voir GF38 d'ici peu de temps, d'ici 2-3 saisons à Ligue 1, parce que je pense qu'il y a une petite place pour le GF38, là.
Bah pour ça, coach, il faudrait peut-être que la poterne, ça évolue, parce que je crois que c'est au même point que vous l'avez quitté. Hein.
Ouais, c'était justement parce que je n'aurais pas trop parlé de ça, parce que ils vont m'engueuler au niveau des mairies ou je sais pas.
Non, vous pouvez y aller, coach, on a balancé déjà.
C'est au même point, il y a des fuites.
Non, il faut bah, je pense que les gens ils sont pas bêtes. Vous savez, le football aujourd'hui, ça représente énormément de choses pour les villes. Économiquement, socialement, vous avez vu ce qu'on a vécu 2-3 saisons. Ça fait tourner les commerces, ça fait parler de Grenoble, etc., etc. Je pense que lui, il mérite aussi, au niveau d'infrastructure, d'aller plus loin, de construire un centre d'entraînement, centre de formation surtout, parce que c'est quand même une région où il y a des très, très, très bons gamins. Il faut c'est ça, il faut parrainiser les clubs au niveau des jeunes. C'est ça ce qui me paraît très, très, très important. Voilà. Et je pense que clubs, pas surtout ville et région, mais ils ont des moyens.
Oui, ça c'est.
Pour sortir les porte-monnaie, hein.
On va dire au maire de la ville.
C'est l'appel de Mécha.
Non, non, mais c'est vrai.
Mécha. Il faut que je cherche un Chinois ou je ne sais pas.
Ouais, ouais.
Non, c'est bon, les Chinois.
Mécha, on
les
a vu ce que ça avait fait déjà, les Chinois et les Japonais, on va les laisser.
Ouais, on va chercher un peu je ne sais pas où, mais.
Ouais, on va bien trouver un mécène quelque part.
Voilà. Et Mécha, à Sochaux, est-ce qu'il y a des petits soccer qui s'organisent avec David Saugé, Daniel Luboya, je sais qu'ils sont encore là-bas. Vous les voyez un petit peu, les anciens?
Oui, mais moi, je suis blessé. Hein. je peux pas. Non, ils sont là. Je le vois de temps en temps.
Ouais.
Je le vois de temps en temps, un jour. Mais comme c'était Covid, c'était un peu compliqué.
Ah, c'était difficile.
Et puis là, il faut que je commence un petit peu de courir pour retrouver ma forme.
Et
ça va être difficile, mais... Ouais, je vais essayer.
Et votre adjoint qui vous a toujours suivi, Stéphane Gilly, est-ce que vous avez peut-être des projets en commun? On sait qu'il n'est pas avec vous en ce moment, mais est-ce que c'est des choses qui peuvent revenir travailler avec Stéphane?
Ben oui, Stéphane, c'était surtout lui qui m'a dit, j'ai envie de terminer, on a commencé, et c'est très jeune avec moi, et puis terminer avec moi.
D'accord.
C'est moi qui a tout fait d'aller travailler avec Wahid Halil Hodžić à l'équipe nationale de Maroc. Mmh. Parce que comme j'ai pas de travail, je veux pas que Stéphane y reste. Et Stéphane, il mérite aussi de travailler, de voilà. Mais j'aimerais bien retrouver une poste et un projet dans lequel on peut retravailler de nouveau Stéphane et moi avec d'autres personnes. Voilà. Mais j'espère que ça va venir. Sinon, ben Stéphane, il est bien avec Wahid. Et puis Stéphane, il a aussi son avenir, même si on ne travaille plus ensemble. Mais
bien sûr.
Je dis toujours trois fois, je dis, mais moi, j'aimerais bien qu'on retravaille, parce que quand même, 17 ans, c'est
pas... C'est énorme.
C'est beau quand même.
Ouais.
C'est comme un frère, je veux dire, c'est un peu, ouais, c'est la famille, quoi.
Ou alors c'est un deuxième
avec
mariage.
Ma femme,
hein. C'est un deuxième mariage, Mécha. Bah après, votre femme, elle est d'accord.
Ouais. Non, c'est un beau sort aussi, parce qu'il parle toujours de Grenoble, quoi. C'est vrai, pour nous, c'était...
Ouais, c'est vrai, je confirme. Quand je l'ai revu, c'est pareil.
C'était une famille, vous étiez proche des supporters, vous étiez proche des joueurs, du staff, c'était une famille.
Ben oui, je pense que ça me... Pour ça, ça me paraissait, vous voyez, aujourd'hui, on va tout au stade pour moi. Et bien sûr qu'il y a des moments difficiles, il faut expliquer, il faut les dire, il faut que les supporters qui viennent au stade, surtout qui sont fidèles, qui savent ce qui se passe, quoi. Après, voilà, je pense que qu'on reste chacun je dirais, à sa place, quoi. Moi, je vois les supporters qui rentrent, qui veulent frapper, qui veulent machin. C'est pour moi, c'est... Voilà. Mais nous, les autres, j'espère qu'ils vont, les supporters, ils vont rester toujours comme ça, fidèles, exigeants.
C'est vrai, exigeants, mais fidèles.
Fidèles, voilà, et surtout, voilà, à supporter, quoi. Même que c'est difficile, on sait, il y a personne qui fait exprès de perdre des matchs.
Non, ça c'est...
Voilà, pour ça, je pense, il faut que ça reste Argentine, c'est ça, Argentine ?
C'est ça, ouais. C'est ça, mes chats, ouais. Grenoble, c'est l'Argentine, c'est ça,
c'est
exactement.
Ça, c'est ça, ouais.
Non, mais je pense qu'en plus, là, tout le monde a pris un peu plus de bouteilles, vous savez, même chez les supporters. Donc, du coup, tous ceux qui étaient là avant, maintenant, ils avaient 18 ans avant, maintenant, ils en ont 26, 28. Ouais. C'est pas la même façon de penser. Et non, je pense qu'à Grenoble, en plus, avec le dépôt de bilan, les vrais supporters sont restés. Et ouais. Quand on vit des choses comme ça, après, forcément, on voit les choses différemment et on est encore plus proche de son club. Ça reste exigeant, mais du coup, voilà, il y a un vrai lien aujourd'hui entre le club et les supporters moi, en tout cas, personnellement, je l'espère, continuera à perdurer. Voilà.
Ouais, moi aussi, j'espère, quoi. Mais de toute façon, les vrais supporters, c'est les gardiens et des clubs et de tout ce qui le club possède, quoi. Si on avait des supporters... Là, je pense qu'on peut aller loin, quoi.
Non, mais c'est clair.
Ouais. Dans un moment difficile, surtout.
Eh ben, en tout cas, Mécha, merci beaucoup.
Merci,
c'était
Mécha.
Un honneur de vous avoir avec nous.
Un honneur, mais c'est clair.
Un grand merci à vous.
On vous souhaite quand même de vite trouver un club parce qu'il y a besoin de mecs comme vous en tant que coach.
Merci, c'est gentil. De toute façon, grand bonjour et bisous. Et puis, j'embrasse les Grenoblois. Et puis, voilà.
Ouais, et puis, vous avez le bonjour de Mathieu Ciancy, d'ailleurs.
Oui. Oui,
ouais, comme vous dites, oh,
oui. Non, parce que moi, c'est le journaliste, les radios, télé, ça s'est bien passé, même quand ça n'allait pas. Voilà, pour ça, je salue tout le monde. Et surtout que j'ai 38, vite retrouve meilleur niveau et puis voilà, qui monte dans la classe, mon.
Eh ben c'est gentil, Mécha.
Merci beaucoup, Mécha. À bientôt.
Allez, très bientôt.
Au revoir. Bye bye.
Merci, Mécha. Au revoir.
Ah, oh, quel plaisir. Ça, c'est... Ah, en fait, sa voix, tu vois, sa voix, que je me souviens, conférence de presse, sa voix, dans, c'est
assez...
C'est quelqu'un. C'est...
En fait, ça m'a rappelé, ça m'a rappelé tout ce temps-là. Bon, après, moi, je l'avais revu entre-temps, donc c'était encore autre chose. Mais ouais, ça fait bizarre de reparler de tout ça et puis de se remettre,
c'est des bons moments.
Se remettre dedans. C'est des très, très bons moments.
Oui.
C'est quelqu'un qui mérite de trouver un club qui lui laisse plus de temps, parce que c'est quelqu'un méchant sur le temps.
Après, voilà, après, on peut critiquer aussi certains aspects.
Bien sûr, complètement.
De sa personnalité, de sa façon de coacher, etc. Parce que quand je discute avec beaucoup de personnes, il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément...
Mange le micro.
Qui n'ont, c'est ça, il veut que je bouffe le micro.
Non, parce que je
suis pas Mathieu Ciancy, moi, pour bouffer le micro.
Quand pour une fois, Quentin.
T'es con. Non, Mathieu Ciancy, t'es en train de me menacer de mort. Je vais devoir poser une plainte. Ça commence à être compliqué.
Non, mais on t'entende quand même, t'es là maintenant.
Concrètement, pour Mécha, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec son aspect.
Trop proche des
gens. Trop proche, ouais. Voilà, de sa façon de parler, etc. Donc du coup. Du coup, voilà. Mais bon, moi, c'est quelqu'un qui, humainement, comme je le dis, quand je l'ai croisé en dehors, il était toujours génial. Donc voilà. Donc, moi, je ne changerai pas là-dessus.
Eh bien, écoutez, allez, on va changer de rubrique puisqu'on va passer tout de suite à la Suède comme d'hab avec, ça y est, on lance notre 11 de légende. Et notamment, on va commencer avec le gardien. À tout de suite dans le RKS Full Time Show 97 FM.
RKS Full Time Show, la Suède comme d'hab.
La Suède.
Le RKS Full Time Show, chaque lundi à 19h sur RKS.
Allez, c'est parti, notre 11 de légende qui va se lancer. Vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Vous le savez, il y a eu des noms. Je vais te dire la Suède, il y a eu des noms comme Zingaro, Bruno Guiguet, Thierry Debes, Grégory Vimbé, Brice Maubleu, bien sûr, Gilbert Baya, Jody Viviani. Non, mais il y en a... Il y a peut-être des quenelles dedans.
Parce que Johnny Viviani, excuse-moi, mais lui, c'est le 11 merguez. Hein, c'est ce que j'ai dit. Moi, je voulais le faire, non, celui-là.
En tout cas, il y en a eu.
Magique.
On m'a dit aussi Paul Cattier, mais c'est vrai que Paul Cattier, c'est certainement pas le légendaire qu'on va donner à la fin, mais ça fait partie de ces gens qui ont marqué. Voilà tous ceux qui ont été proposés. On va donc élire notre gardien. Je vais d'abord vous demander votre avis. Tout d'abord à toi, mon Kevin.
Ouais, faut que je retrouve mes notes parce que
le mec, oh là là,
le mec il bosse.
Tu devrais les connaître par cœur là.
Oui, c'est vrai, je devrais les connaître par cœur. T'as raison. J'ai mis 20 B, ça c'est sûr. J'ai mis Gentil aussi.
Arnaud Gentil. Ouais.
J'ai mis qui d'autre? Renan Lechrome, non, c'est vrai.
Renan Lechrome, il a fait pas. C'était un bon mec quand même, Renan.
Oui,
Lechrome.
Non, mais bon, ouais, mec, bon mec.
Moi, j'ai une bonne anecdote avec Renan Lechrome.
C'est vrai.
Ouais. C'est vrai. Vas-y, vas-y, pendant que je cherche.
Ouais,
je
vas-y, balancer, vas-y. Il y a pas de souci. Hein, j'étais à un entraînement un jour où ça allait très très mal. Et du coup, je lâche un petit.
Tu l'assures?
Non, pas sur Renan Lechrome. sur les joueurs, je lance un petit. Bon, j'étais investi à l'époque un peu plus que maintenant. Je lance un petit. Bon, allez, les gars, faut rien lâcher. Lâchez pas le morceau ou un truc comme ça. Mm. Et là, j'ai Lechrome qui me regarde et qui me dit: ferme ta gueule.
Non, pour de vrai?
Véridique.
C'est énorme.
Donc là, c'était déjà chaud bouillant. Donc là,
c'est énorme.
J'attends qu'il fasse le tour. Je dis quoi? Il me dit on va parler après. J'ai dit donc,
on va parler.
Voilà, mais j'étais fou déjà. Et lui, je me suis dit, putain, si ça se trouve, il est encore plus fou que moi, le bonhomme. Et en fait, à la fin de l'entraînement, il est venu me voir.
Quelqu'un de très posé.
Il m'a dit, excuse-moi, je suis vraiment désolé, j'avais pas réagi comme ça. Et moi, j'avais une image de lui comme étant un mec super froid, etc. Et en fait, en discutant même avec lui après, avec certaines personnes, en fait, il paraît que c'est un super mec.
C'est un super mec, ouais, c'est pour ça. On m'a dit que c'était un super mec. Hein, mais...
Et c'est assez impressionnant. Ouais. J'en ai discuté avec Francis Nganga il n'y a pas longtemps aussi de lui. Et il m'a dit non, c'était un bon mec.
Est-ce que Francis s'est réveillé depuis?
Trop.
On n'a pas eu encore. Ouais, Francis, si tu nous écoutes, on
va il m'a dit 8 décembre, il m'a dit.
8 décembre, bah, c'est l'hibernation. C'est l'hibernation.
Ouais, je sais pas. Il voyage entre le Congo. Congo,
est fabuleux,
en Congo, la
bon,
Belgique,
j'ai mis 4.
Et puis, je sais pas quoi. Ça y est, t'as mis 4.
Donc, j'ai mis Maubleu, Vimbé, Debesse et Gentil.
D'accord. Voilà. Massuette, toi.
Moi, j'ai mis Vimbé, Debesse, Baya et Guéguin.
Eh ben, écoutez, moi, on est pas loin. Hein. Moi, j'ai mis Maubleu, Vimbé, Baya et Debesse.
Debesse était clair. On n'en parle pas souvent. On a parlé d'Arnaud Gentil une ou deux fois dans l'émission. Mais Debesse, moi, j'en ai.
Disons qu'Arnaud Gentil, c'est pas le GF38, c'est l'OGI.
Ouais, bon après, c'est ce que je disais, c'est quand même fait partie de la même famille.
Comme Bruno Guiguet, hein, c'est Zingaro, voilà, Bruno Guiguet, ce sont des grands gardiens grenoblois. Il va falloir qu'on en élise un.
Moi, je pense que de toute façon, voilà, moi, après tout ce qui.
On est d'accord sur Debesse déjà, non? Et Vimbé. Ils sont dans notre liste ou pas?
Moi, honnêtement, j'aurais dit Grégory Vimbé.
Ouais, mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Après, moi, j'ai fait la liste. J'ai plein de personnes qui m'ont contacté et tout, et qui m'ont. Pareil, hein, c'est Vimbé qui ressort.
Ouais.
Haut la main.
Ouais.
Après, il y a quand même du Gilbert Baya aussi, hein, c'est mémorable. La Panthère.
Vous savez que Gilbert Baya, je suis en contact avec lui. Hein,
C'est magique.
Ouais, ouais. Gilbert Baya, il est du côté du Canada, où il entraîne, en fait, il est formateur de la formation, un peu comme l'INF Clairefontaine. Là-bas, il y a l'INF un peu Montréal. il entraîne autant les filles que les garçons. Il m'a dit qu'au niveau du décalage horaire, c'était compliqué, mais qu'il aimerait participer à l'émission.
Ouais, c'est cool, c'est un bon mec en plus.
Donc, mais par contre, ce qu'on t'a pas dit, la Suède, c'est que le 11 de décembre, il faudrait tous qu'on les ait au téléphone, les mecs.
Bah, Grégory Vimbé, je pense que c'est possible.
Bah,
Debesse, j'ai aucune nouvelle.
Non, mais je pense que de toute manière, on va pas. Greg Vimbé, il a marqué l'histoire du club. Ça a été le capitaine.
Après, voilà. Ce qu'il faut, c'est que c'est un mec, quand même, Greg Vimbé. Autant sportivement que humainement, c'est un gars, mais il était exceptionnel. Moi, je me souviens d'un truc, je sais pas si vous vous en souvenez, quand il était au FC Metz.
Ouais.
Vous avez pas eu l'image d'une vidéo avec Obraniak? Ils font un taureau. Il chope Obraniak, parce qu'Obraniak, il faisait trop le malin à l'époque, c'était un jeune. Il chope Obraniak par le callback, il le soulève et lui dit, en gros, t'es qu'un gamin, ferme ta gueule.
Ah, mais je pense que...
Mais c'était un mec comme ça, et il avait une poigne. Et puis regarde, comme il disait Mécha tout à l'heure, 37, 38 ans, le mec, il était encore au top niveau.
C'est vrai.
C'était un super gardien. Attends,
c'est
il a fait la Ligue des Champions et tout, quand même.
Il a joué à Lille, il a joué à Metz, il a joué à Valenciennes, il a joué à Nancy.
Il a fait équipe de France à prime aussi, à l'époque.
Il faut savoir qu'il est quand même c'est l'actuel entraîneur des gardiens du LOSC. Hein. C'est pas quand même n'importe qui, Greg Vimbé. Et je pense vraiment que c'est... Pour moi, un des capitaines qui a marqué le GF38.
Ouais, mais il a été respecté par tout le monde, ce mec-là. Il n'y en a pas un qui...
Il a été respecté, mais tant par les joueurs,
par la
les
taille.
Entraîneurs, par la taille. Déjà, non, mais la taille, et puis oh, il a une tête à l'ancienne, Greg Vimbé, il faut se dire.
Ouais, c'est clair.
Oui, c'est vrai.
C'est l'ancienne académie, quoi. Mais
ouais, c'est vrai.
En tout cas, pour moi, c'est le gardien de légende du GF38. Même si je ferai une petite place à... Ça a rien à voir, c'est pas le même niveau. Mais un Brice Maubleu qui est là en fait depuis.
Ouais, mais Brice, moi je voulais pas le mettre.
C'est pas pareil.
Moi, Brice, je voulais pas le mettre parce qu'il est encore en activité.
C'est ça.
Et moi, je voulais vraiment, insister sur les mecs qui ont marqué, qui ont marqué le club par leur qualité, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit sportive. Après, voilà, après, 20B était quand même largement au-dessus. Thierry Debesse nous a fait des belles saisons aussi. Mais ouais, moins dans. C'était un capitaine Debesse aussi quand même. Il a été capitaine.
C'est pour ça, c'est ce que je dis. Il a été capitaine.
Et Gilbert Baya, parce que.
C'est très bon. Bah, c'est certainement un des plus impressionnants.
Alors, il était capable de te faire un match pourri.
Et de faire un match de folie.
Ouais, comme un match de folie. Moi, je l'ai vu à Lille, je l'ai vu faire des parades de malade. Tu te demandes comment il va chercher le ballon dans
Gilbert
Baya,
en plus, c'était à l'époque de Duharig. Il avait, vous savez, les maillots tigrés, là.
C'est ça.
Il avait les maillots jaunes tigrés. Moi, j'arrivais à le reconnaître comme ça, mais c'était exceptionnel.
Bah, non, c'était un. Voilà. Mais bon, il fait Fred Guéguin aussi. Mais Fred Guéguin, c'est pareil, il est resté deux ans, je crois. Et à l'époque des Milazzo et tout, mais je trouve qu'il a moins marqué, mon esprit en tout cas.
Bon. On l'a eu Fred Guéguin dans l'émission.
On l'a eu Fred Guéguin, bien sûr.
Mais c'est un bon mec hein, aussi. Hein.
Bien sûr. T'es d'accord pour Greg Vimbé ?
Oui, bien sûr.
Messieurs, c'est Greg Vimbé. Maintenant, on va balancer pour finir la page GF38, la quenelle. Vas-y, dis-moi ta quenelle.
T'appelles ça la quenelle ?
Ouais, la quenelle.
La merguez.
La grosse merguez.
Enfin, on en a eu plein. Alors, je vais en citer trois quand même.
Ah, trois ?
Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la montée ratée en deuxième div. On avait Nicolas Ardouin et Johan Bouchard qui partageaient la cage. Oh, mais c'était des catastrophes, ces mecs-là. Si on avait eu un bon gardien
au moins,
les deux...
Quoi, là, on est années 97-98.
98-99, c'est la montée, je crois, qu'on loupe à Angers. Et les mecs, les deux, ils valaient pas une thune.
Ouais, c'est une catastrophe. Non, mais au moins, c'est...
J'étais trop jeune, moi, je suis désolé.
Ouais, non, ils valaient pas une thune. Bah, c'est la fameuse fois où Renaud Marco, il nous parlait, là.
À Angers.
Ah, oui.
Bref, et donc, ils valaient pas une thune tous les deux, et c'est eux qui nous bouffent la montée, de toute façon. Et après, non, Jody Viviani, une catastrophe.
Voilà.
C'est dommage. Parce qu'on
c'est dommage, lui. Moi, je trouve que c'est dommage parce que je trouvais que quand il a commencé à Saint-Étienne.
Non, il était à Montpellier.
À Montpellier, déjà, il était jeune et il était bon. À Saint-Étienne, c'était pas mal. Bon, il avait fait pas mal de boulettes aussi. Et j'y croyais vraiment, moi, à l'après 20B avec lui.
C'est pareil, j'ai une anecdote là-dessus, mais je sais pas si on va le temps.
Vas-y, c'est bon.
Le GF38,
en fait, c'est dommage. C'est dommage.
GF38.
Mécha et Steph, ils auraient pu nous le dire. Mécha, lui en aurait parlé tout à l'heure. À la base, c'est pas Jody Viviani qui doit venir à Grenoble à cette époque-là, après Greg Vimbé.
C'est qui ?
C'est Jérémy Jeannot.
Ah ouais ?
C'est pas vrai.
Non, c'est la vérité. C'est Jérémy Jeannot qui doit venir et en fait, il perd son beau-père une semaine avant de signer.
Et du coup, c'est.
Son beau-père, il. Voilà,
qui était son papa, je crois. Qui s'est beaucoup plus.
Ouais, il s'est suicidé. Donc, du coup, ça lui a un peu.
Ça a tout remué.
Voilà, ça a tout remué. Et donc, on s'est retrouvé sans gardien.
Donc, c'est vraiment un choix par défaut.
Et en fait, ouais, c'est choix par défaut parce que du coup, c'est là que Saint-Étienne nous dit « Écoutez, nous, on a Jody Viviani, sinon.
» Cadeau.
Ah non, mais véridique, hein, c'est, je vous jure que c'est vrai.
Bah, on échangeait beaucoup avec Saint-Étienne à l'époque. Hein.
Et ben ouais, et ben donc du coup, on se prend Jody Viviani. Et on sait ce que ça a donné.
Une quenelle.
Ouais, c'est une quenelle, ouais. Non, franchement, mais c'est une catastrophe.
Bah, il faut dire les bons, il faut dire les mauvais.
Ouais, non, franchement.
Il a fait quoi après ? Tiens, je vais chercher un peu des
infos. Il joue à Toulon, là, je crois.
Non.
C'est vrai ?
Je crois qu'il joue à Toulon.
C'est vrai ?
En CFA ou...
Mais attends, il a quel âge ?
Il doit avoir 38, 40.
Il est 82, 39.
Ouais, donc il commence à être fatigué, je dis Viviani quand même.
Ouais, il a toujours été fatigué.
Il joue plus à Toulon. Normalement, c'est fini là.
Non, voilà, ouais, mais bonne merguez. Ouais, je pense merguez. Alors après, si vous voulez qu'on se fasse un 11 merguez aussi, je pense que ça va être
possible. Je pense qu'on le fera. Alors, la semaine prochaine, on lancera la défense centrale.
On fait que défense centrale la semaine prochaine ?
Ah, que défense centrale. Il y a tellement.
Putain, j'en ai des bons. Hein.
Et il y en a tellement. Parce que je vais vous dire, il y a tellement de monde.
Mais il commence déjà à balancer les noms, lui.
Non, non, mais il y en a tellement. On peut penser à des mecs comme Bostian César, Maxence Flachez, Hervé Milazzo, d'une autre époque, Sandy Payot, Vita Kic.
Là, ça va être.
J'aimais bien, moi, tous ces joueurs.
Non, mais il y en a beaucoup, là. Tu vois, j'en ai cité déjà 7 ou 8. Il y en a tellement. On va le mettre sur les réseaux. Choisissez cette défense.
Vivian Mateus, Bertin Tocchini.
Vivian Mateus. Vivian Mateus, j'adorais.
Vivian Mateus, Bertin Tocchini. Ah ouais, putain.
Non, mais là, on peut venir encore plus en arrière. Hein. Comme tu sais, Milazzo, il jouait avec Courtin et Yao en défense centrale.
Cyril Courtin, Jean-Pascal Yao.
Jean-Pascal Yao.
Non, mais c'est...
Et quelqu'un, tiens, on va en parler. Quelqu'un qui a joué, enfin qui jouait pas à Grenoble et qui a fait une putain de carrière après, Ibrahima Sonko.
Ibrahima Sonko, qui est grenoblois d'ailleurs.
Non, il n'est pas grenoblois, il est parisien.
Il était venu à Grenoble.
De quoi ?
Il était venu à Grenoble.
Comment ça ?
Ibrahima Sonko.
Il a joué à Grenoble. Ibrahima Sonko, mais après, il a joué après Grenoble.
Ah oui, voilà.
Il ne jouait pas à Grenoble, il était remplaçant.
Il a explosé
à Brentford, il a joué à Reading, il a joué en Première Ligue.
Il y a énormément sur ce poste de défenseur central, il y a du monde en tout cas.
C'est vrai.
Bon, vous allez m'incendier, j'ai pété le score.
Écoute, c'est pas grave.
Non, mais t'étais là, t'as toutes tes excuses aujourd'hui.
Ça y est,
t'avais carte blanche.
Ouais, ouais.
T'avais carte blanche et puis on a eu quand même l'honneur d'avoir Mécha. Il fallait revenir sur le match.
Mais
de Dijon.
Bien sûr, bien sûr.
Cette idée d'Ange des légendes, on voit que ça fait réagir. Il faudra qu'on fasse une com d'ailleurs tout de suite après l'émission pour lancer déjà vos idées pour qu'on puisse élire en tout cas cette défense centrale de légende. Déjà, voilà, on a élu le gardien.
Rendulic, il dit.
Oh là là, Zoran Rendulic. C'est la quenelle. Zoran Rendulic.
Ah ouais, non, c'était une blague. Uros Maric aussi, j'ai pour ceux qui se souviennent.
Oh là là, mais là tu vas chercher loin.
Ah, mais attends, on est un vrai ou on n'est pas un vrai. Hein. Uros Maric.
Tu vas chercher loin.
Putain, c'est dommage, on en parlait à Mécha.
Ouais, c'est vrai, ça fait partie des joueurs.
Tous ces zincs.
Mais tu sais, comme on parlera de Chouito, Dimitrievitch et tous ces
zincs. Ah, Chou,
et encore, Dimitrievitch, c'était un bon mec. Donc
un bon mec,
envie,
mais
j'ai
il
pas
a
envie
servi
d'en
à rien
parler.
Quand il est venu sur Grenoble.
Sinon, on peut dire, on parle de Raspantino, c'est bon.
Ouais, Rassard, Sébastien Rassard. Vous en voulez de lui ou pas?
Non, je connais pas.
Le mec, il est venu avec une pubalgie. Il a eu une pubalgie pendant 12 mois.
Putain,
allez, on arrête là.
Allez, le débat GF 38, on va libérer ma Suède qui
non,
qui...
il reste avec nous, il a dit un petit peu.
Ça fait plaisir. Et bah, tout de suite dans leur caisse.
Il a la permission de 20h.
Ah bon, ça va.
Il faut que j'appelle ma maman.
Ah, bon. Tout de suite dans leur caisse.
Et Mathieu Sensi est dispo si on veut l'appeler.
Il est dispo.
Mais oui.
Ah, mais c'est parfait. On l'appelle tout de suite.
Allez, on l'appelle.
On l'appelle tout de suite. Allez, dans un instant de leur caisse Foot Time Show, on parle de Ligue 1.
Le Foot Time Show sur RKS. RKS Foot Time Show, la Ligue 1, Uber Eats.
Le RKS Foot Time Show sur RKS.
Et oui, la Ligue 1 Uber Eats, hein, puisque ça jouait cette semaine en Ligue 1 et avec deux gros chocs, notamment ce premier match à Massuette que vous avez peut-être vu entre Nice et l'Olympique Lyonnais. Je vais vous dire, hein, vous savez que je suis supporter lyonnais, j'ai failli casser la télé parce que j'ai l'impression que Christophe Galtier a encore fait. C'est pour ça que je voulais le coach soit avec nous. Je voulais qu'on parle de Christophe Galtier. Lyon qui surclasse ce match jusqu'à la 81e, d'accord, jusqu'à ce que, je vais le dire, ce tacle d'abruti qu'il a fait.
Mais pourquoi? Attends, déjà moi j'ai envie de nous poser la question, pourquoi Kadewere joue aussi longtemps?
Alors que pourtant
j'y croyais à ce petit, quand il a signé avec chez nous et tout machin. L'année dernière il fait pas une mauvaise saison, mais là je trouve que depuis quelques mois et même depuis la fin de saison dernière...
Tu mets qui à la place?
Pas lui.
Ben ouais, mais
non, mais je sais pas, mais pareil, ouais, je sais pas, mais c'est
est-ce que tu fais jouer Shaqiri, est-ce que tu fais jouer
pourquoi tu fais jouer
Ryan Cherki, parce qu'il a pas montré pour l'instant depuis de
ouais pouvait... mais et Ryan Cherki, pourquoi on lui donne pas vraiment un petit peu de temps de jeu vraiment dans peut-être la continuité? Enfin, je sais pas, on dit que tout le monde n'arrête pas de dire que c'est un crack. Il a des qualités, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'il en pense, Mathieu? Tiens,
coach, comment vas-tu, coach?
Bah écoutez, ça va, j'ai été mis en colère en début d'émission.
t'es dans une phase de digestion.
C'est ça, je vais rester politicard, il paraît que je suis politicard.
Ça te va tellement bien, mon Mathieu.
Écoutez, j'en pense que le premier débat, de toute façon, est toujours le même, avant même tout ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a un raccourci quand même qui nous revient en tête, c'est est-ce que les clubs qui jouent les compétitions européennes sont pas à un moment désavantagés quand
j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé de ce côté-là, mais t'as peut-être raison.
Il y a quand même, bah, pour moi, quand vous prenez, alors je veux bien qu'on parle de mental, de carton rouge, mais quand vous prenez deux buts dans les deux dernières
minutes, oui, mais bien sûr, non, mais bien sûr,
dernière, il y a quand même athlétiquement quelque chose qui se passe, ils ont quand même voyagé. C'est un scénario où ils ont dû courir après le score pour revenir face à une équipe qui n'était pas non plus exceptionnelle, mais qui les menait 2-0. Je pense qu'il a aussi fait des choix d'hommes qui étaient aussi un peu en lien avec ce match. Enfin voilà, je pense que la première question c'est quand même celle-ci. Après, sur les joueurs que vous citez, voilà, Kadewere, je pense que avec un coach comme Garcia qui avait un jeu peut-être moins basé sur l'aspect technique et peut-être plus sur l'aspect athlétique, ou en tout cas qui s'en servait plus comme ça, c'est sûr qu'avec Bosch, ça c'est compliqué. Et puis vous verrez que Cherki, je suis sûr qu'il va sortir très tard du chapeau, mais qu'il est en train de le préparer. Il le travaille mentalement comme il en a transformé d'autres, et puis quand vous le verrez sortir, ce sera certainement une machine, ou alors il sortira jamais, mais il n'y aura pas de juste milieu, voilà, à mon avis.
Moi, la question que j'aimerais te poser, coach, c'est si c'est pas Christophe Galtier le coach de Nice, il se passe jamais ça.
Ouais, t'as sûrement raison. Alors peut-être qu'en plus, je pense qu'il a cette crédibilité auprès de ses joueurs. Donc je pense qu'il pourrait leur raconter n'importe quel scénario, ça passerait. Après, je reste quand même persuadé qu'il y a eu quand même un impact avec cette Coupe d'Europe. Moi, j'en suis persuadé. Et je pense que Lyon n'est pas, de toute façon, ne tiendra pas sur la longueur. Voilà, c'est mon avis.
Tu les vois pas finir par exemple sur le podium?
En tout cas, pas devant le PSG et Marseille.
Ça c'est sûr. Marseille aussi.
Moi, Marseille, on a beau dire ce qu'on veut, j'y crois quand même plus sur le long terme. Je trouve qu'il y a une identité et qu'on est en train de se servir de l'environnement à fond, et ça finira par payer, même si Payet se lance en politique plus que moi, à mon avis. Mais en tout cas,
il prépare sa carrière, après carrière.
Je sais pas si une équipe comme Nice sur le long terme finira pas devant Lyon, surtout s'ils vont loin en Coupe européenne.
Moi, je suis persuadé.
Les effectifs français sont pas faits pour jouer sur les deux tableaux. On n'a pas les moyens financiers, je le redis, pour avoir des effectifs.
Mais même si ça fait plaisir de voir les clubs français qui jouent en Coupe d'Europe, hein. Lyon qui est allé taper 3-2. J'ai même plus quel
Sparta.
Le Sparta Prague, ça fait plaisir. On voit des clubs français enfin qui jouent la Coupe d'Europe. Mais c'est vrai que ça a un impact, t'as raison, sur le championnat et peut-être sur l'aspect, le côté physique qui peut pêcher du coup sur le match qui vient après. C'est fort possible.
Ouais, ou alors c'est tout simplement qu'à l'étranger, on est plus travailleurs aussi qu'en France. Hein. Ça, il y a beaucoup de personnes qui le disent aussi. Hein.
Ouais, non, mais
un calendrier qui va être difficile pour Lyon quand même sur les prochaines rencontres. Il y a Lens. Il y a le Sparta et Prague, le match retour. Il y a surtout après, du coup, Rennes, Marseille, Brøndby. Brøndby, je pense que ce sera la qualification sera quasiment assurée, mais il y a quand même pas mal de... Enfin, Lens, ça ne va pas être facile, parce que c'est jamais facile contre Lens, comme contre Nice d'ailleurs, hein, on se fait toujours niquer contre Nice. Et après, derrière, il y a Rennes et Marseille. Et ça va être compliqué.
Non, mais pour revenir sur Galtier, comme quoi c'est quand même un icône, ce mec, parce que ce qu'il a fait avec Saint-Etienne, ce qu'il a fait avec Lille, ce qu'il est en train de faire avec Nice, avec quasiment rien, hein, il a un effectif qui est correct, mais qui est pas fou, hein, Mathieu.
T'as raison. Non, mais t'as raison. Mais
il pourrait là. Ça me fait penser un peu à Mathieu Ciancy, le mec, il gagne 4-1, il se fait son gardien expulsé, c'est un peu la même chose. Je pense, Mathieu, tu peux raconter n'importe quoi, tes joueurs te croient.
Bah écoute, déjà, on fait n'importe quoi la semaine.
Il y a un grand footballeur qui a dit c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.
Un grand footballeur de qui?
Mais Rémi Gaillard, il est
mais
trop
c'est
fort.
Pas, il est pas footballeur.
Mais il joue à Montpellier.
Mais non, il joue pas à Montpellier.
Mais bien sûr que si, il joue à Montpellier.
Mais non.
Rémi Gaillard, il joue à Montpellier.
Il a fait semblant de jouer à Montpellier.
En tout cas, il a pas tort. Nous, ça marche bien. Il y a pas de souci.
On a vu.
Non, mais je crois que, enfin, tu vois, Mécha a effectivement, comme tout le monde, des qualités, des défauts, mais je crois qu'il y a une part de vérité qui se situe quand même dans la relation entraîneur-entraîné, et Galtier l'a compris. Je pense qu'il il prend le risque de se mettre sur le même niveau que ses joueurs à ce niveau-là. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de très vertical. Il le respecte parce qu'il dégage et parce qu'il leur accorde comme écoute, comme empathie, comme compréhension, comme... et moi, je crois qu'à un moment, une partie du secret se situe là. Aujourd'hui, un mec comme Klopp, je suis pas sûr qu'il joue au chez Fayon avec ses joueurs toute la journée. Là où un Mourinho et d'autres sont devenus fatigants. Enfin voilà,
parce que c'est tu parles, c'est bien que tu fasses le parallèle avec Mécha, parce que je pense que c'est quelqu'un que t'as bien connu à l'extérieur, parce que de par Hugo, ton frère qui l'a coaché. Tu penses que ça fait partie, ce relationnel de la réussite du coach
aujourd'hui?
Ouais,
bien sûr. En fait, t'as le relationnel, mais quand je dis relationnel, c'est même pas transférer le pouvoir aux joueurs, c'est cette capacité à réussir à avoir un impact sur tes joueurs et qui sentent qu'il y a une limite, mais sans avoir à le rappeler, en fait. Vraiment,
je vois ce que tu veux. C'est du leadership naturel.
Et pour moi, je pense, et c'est là où je ne veux pas réduire le rôle de Galtier, je pense que 80% de ce truc-là se passe dans ce que tu proposes aussi sportivement. Et Galtier, on le réduit beaucoup à un état d'esprit. Mais aujourd'hui, force est de constater que Lille avait quand même un style de jeu avant lui qui était autre que celui qu'on voit actuellement. Nice commence à en avoir un aussi. Donc je pense que cet homme-là doit aussi séduire dans ce qu'il propose dans ses séances. Et on le réduit à un fighting spirit, à un truc de vie commune.
Non, mais c'est pas Pascal Duprat non plus. Hein.
Bien sûr, voilà, c'est ça. Un joueur ne peut pas se contenter que de ça. Et je pense que c'est un mec qui s'allie peu ses joueurs quand même en public, si tu regardes bien. Moi, en tout cas, c'est des choses auxquelles je suis sensible. Et je pense que voilà, ce tome-là a un temps d'avance et que s'il n'est pas parti à l'étranger, c'est aussi parce que peut-être que la barrière de la langue pour lui avec son management et comme il voit les choses, c'était pas une bonne idée. Et je pense que même s'il a pu surprendre du monde, moi, Lyon, je pense que c'était pour la rivalité avec Saint-Etienne et qu'il l'aurait jamais fait. Maintenant, pour l'étranger, je pense qu'une partie se situe dans son management et c'est un mec que je respecte parce que je pense qu'il fait avant tout tout ça pour les autres avant de le faire pour lui. Donc voilà, mais c'est que mon avis sur ce tome-là. Quoi. Voilà.
On va passer du coup au match à l'Olympico hier.
Non, c'est pas l'Olympico.
À l'Olympico, parce que maintenant l'Olympico, le Classico, pardon.
Mais... Non, mais.
Mais il était tellement nul ce
ça,
match.
Par contre, c'est ça, pas par grave, contre. J'aimerais qu'on en parle, tiens, de Snem. De quoi?
Le Bidonio.
Mais franchement,
ça, le Bidonio, c'est quoi? C'est un nouveau restaurant, c'est quoi?
Ouais,
ça,
c'est ça. Mais franchement, il valait mieux aller au restaurant hier soir, hein, pour voir une prestation aussi médiocre.
J'aimerais qu'on parle de ce nom-là, de bidon qu'on a donné à ce match-là, le Classico, qui n'est pas un Classico. Le Classico, c'est Real Barça, c'est aucun autre
c'est
match.
C'est un Classico français, en fait.
Mais c'est, oui, c'est, mais ça, c'est n'importe clubs, quoi. Ça, c'est des coups de com'.
Paris, pour quoi,
c'est n'importe quoi.
Mais tu l'as vu, le vrai Classico hier, c'est pareil, ça ressemble à rien. L'Espagne, bientôt, c'est la Ligue 2 française.
Non, mais d'accord. Mais le Classico, c'est le match Barça-Real, c'est pas PSG-OM. Je suis désolé, ça n'a rien à voir.
Le classique, si tu préfères.
Le classique, mais ça c'est juste parce qu'on veut le franciser.
C'est un bon Sud-Isère 4 montagnes. Voilà,
c'est ça. C'est exactement ça.
Sinon, il a qu'à dire que c'est le Classico aussi, Mathieu Sancy, quand il joue contre Échirol. Enfin, bah,
c'est un derby.
Tout est un derby en Isère.
Pas faux. Non. Il faut parler quand même de ce match. Moi, ce qui m'a déçu, et on va voir si le coach est d'accord avec nous, ce qui m'a déçu, c'est que j'ai trouvé aucune ambition tactique, que ça soit du côté marseillais ou du côté parisien. Rien n'était.
Alors, est-ce qu'on peut les mettre sur le même plan au départ?
Au départ, non.
Je pense que celle qui te déçoit le plus des deux dans ce qu'elle a proposé, c'est quand même plus Paris pour le coup. Enfin, je trouve que. Sincèrement, c'est pas contre Pochettino. Encore une fois, j'ai le respect de un mec. Je ferai jamais un millième de ce qu'il vit et de ce qu'il fait. Mais franchement, je comprends toujours pas la trame. Il y a rien. Il sort Neymar à la 87e pour dire que faut pas que ça fasse un coup d'état. Mais voilà, il excuse presque de le faire. Il y a aucune fluidité, si ce n'est d'un moment on fait limite bloc médian bas et on attend de pouvoir lancer Mbappé dans la profondeur parce que.
Mais c'est ça le projet de toute façon depuis le départ. Hein.
Ouais, enfin bon, franchement, moi je trouve que ce qui résume le mieux, c'est ce match-là, c'est l'organisation du foot français avec des mecs qui lèvent trois filets pour empêcher des bouteilles de venir. Enfin,
c'est vrai, qu'on en parle.
C'était ridicule.
C'est ridicule. Enfin, je trouve que voilà, Marseille a joué sa partition. Je trouve que le VAR gâche un peu le match parce qu'on est sur du chichi. Le but de Marseille, ça joue à un orteil.
À un centimètre.
Non, mais c'est toujours comme ça,
folie,
de toute façon.
Laisse la folie, laisse le stade vibrer. Marseille, ils ont 9 points d'avance. Rend service au football, laisse-les marquer, que le truc se débride. On est en train d'aseptiser tout ça. Je trouve qu'ils n'ont pas aidé. C'était un temps fort du match. Ils l'ont calmé. Il doit y avoir 1-1 à ce moment-là presque. Et derrière, je trouve que voilà, Marseille, en tout cas, a eu le mérite de rester dans son schéma, de rester dans ses convictions. En tout cas, je trouve que c'est la première fois que le PSG est autant inoffensif dans un match.
Alors qu'ils ils attaquent avec le quadruor, Di Maria, Mbappé, Neymar, Messi.
Ouais.
À un moment donné, quand tu attaques avec ces quatre joueurs, tu t'attends à autre chose que faire 10 frappes et faire un 0-0. Quoi.
Ah bah, et tu peux aller plus loin, Melvin. Hein. Aujourd'hui, le PSG, même Kev, hein, le PSG, imaginez un match du PSG sans Mbappé aujourd'hui. Je vous rappelle qu'ils étaient presque prêts à le vendre et que tout le monde... Et tout le monde à ce moment-là disait « Ouais, c'est un sale merdeux, il faut s'en débarrasser. » Mais aujourd'hui, le PSG sans Mbappé, mais je paierai pour voir ce que ça donnerait. Enfin, franchement, c'est heureusement qu'ils l'ont, vraiment.
C'est l'arbre qui cache la forêt, oui. Après, est-ce qu'il faut le garder parce que toi, t'es nul et que c'est le seul qui te permet de rester à peu près bon?
Moi, je voulais parler quand même d'une chose. On a parlé de c'est vrai, c'est filé, c'était ridicule et tout ça. Maintenant, toi Massuette, qui est fidèle quand même supporter, quel regard t'as sur ces supporters marseillais, sans critiquer, sans vouloir prendre parti ou quoi que ce soit?
Je te regarde, avis.
mais j'ai envie d'avoir ton avis. Moi, un stade qui gronde comme ça, je trouve ça énorme. Tu trouves ça ridicule aussi? Non, mais tu peux le dire.
Oui, enfin moi, déjà les supporters marseillais. Bon, j'ai des copains qui sont supporters marseillais déjà, donc
personne n'est parfait.
Pas manquer de respect à mes potes et tout ça, mais bon, je trouve qu'il y a une mentalité à Marseille qui est
forte quand même.
qui est très spécial. Moi, j'adhère pas à cette, j'adhère pas à leur mentalité.
Moi, je suis d'accord
donc,
aussi.
Donc voilà, moi j'ai énormément de mal avec ça et ça depuis que je suis tout petit. Donc moi je suis désolé, mais moi j'adhère pas du tout à leur.
Oui, mais est-ce que les filets c'est justifié du coup?
J'en sais rien. Honnêtement, je vais même pas me mouiller là-dessus parce que.
Enfin, les filets, tu sais, tu les mets tout dans les tribunes. Hein. T'as pas besoin de mettre des mecs avec des filets
oui.
qui tiennent.
Non, mais à un déjà, moment donné, ce que je comprends pas, c'est que les mecs ils se tirent une balle dans le pied déjà à foutre la merde déjà.
Oui, parce que c'est eux qui iront pas au stade.
Même ils pénalisent tout le monde. Au bout d'un moment, tu peux être ultra, tu peux supporter ton club, tu peux voilà, tu peux faire plein de trucs, mais au bout d'un moment, si tu mets pas du tien. Tu sais forcément que ça va te retomber dessus, ça va retomber sur ton club et tout ça. Sauf que les mecs, ça a tellement été une mafia à Marseille que du coup, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ça, c'est dit. Et de toute façon, c'est pas.
Mais non, c'est connu, la vérité.
C'est connu de tout le monde, de toute façon. Peut-être un peu moins maintenant, mais voilà. Marseille, c'est une mafia. Dans les tribunes, c'est une mafia. Ils font ce qu'ils veulent. Et voilà. Donc du coup, ils auront toujours ce problème avec ça. Mais c'est n'importe quoi. Mais après, bah, écoute, ils foutent le bordel. Et puis écoute, c'est leur problème. C'est le cas, hein. Après, le monde ultra aujourd'hui, il y en a des bons, il y en a des pas bons.
C'est sûr.
Voilà, c'est tout. Il y en a qui se battent pour que la mentalité ultra et tout ce qu'ils revendiquent, et ben voilà, que c'est un sens. Et t'as tous ceux qui sont là et qui font n'importe quoi à côté, puis qui détruisent tout.
Voilà.
Les supporters marseillais font partie de cela. Et puis voilà, qu'est-ce que je te dise.
Coach, voilà. Sampaoli, est-ce que sur la durée, ça peut marcher?
Eh ben, écoute.
Bisous, ma Suède.
Bisous, Mathieu.
Bisous, Suède. J'étais réticent, mais force est de constater que les joueurs adhèrent. Donc ça, je pense que c'est le point de départ.
Mais tu penses qu'ils adhèrent à lui
mais
ou qu'ils
rien
adhèrent
ne
à son,
dure à Marseille.
Son... Ouais, mais est-ce qu'ils adhèrent à lui ou à son envie de faire jouer au football? C'est différent.
Alors, je pense qu'ils adhèrent déjà à la crainte de se prendre une tarte dans la tronche parce qu'ils l'ont déjà vu s'énerver.
C'est qu'il fait flipper quand même.
Ouais, il fait un peu flipper. Non, je pense qu'il le trouve quand même couillu. Enfin, aujourd'hui, il a installé un schéma, on va pas rentrer dans les détails, mais il installe un schéma tactique qui se veut quand même ultra offensif. Il va chercher tous ses adversaires très haut. Il veut la possession du ballon. Il y a quand même des attaques qui sont variées. Enfin, moi, je trouve qu'il y a pour le coup une vraie identité, un vrai style. Je suis pas du tout supporter de l'OM, mais je trouve que quand tu es joueur, il y a rien de plus important que d'avoir des repères et une identité. Je l'ai jamais vu s'adapter à un adversaire. Il a joué le PSG comme s'il jouait Reims ou n'importe qui dans ce championnat. Moi, je trouve que quand un coach fait ça, il fait déjà preuve en soi de caractère et que quand t'es joueur, tu peux pas être insensible à ça. Surtout qu'aujourd'hui, au classement, bah, ils sont loin d'être à la rue. C'est pas le pire début de championnat qu'on ait vu à l'OM. Je pense qu'il y a aussi une pression, une attente parce que le recrutement, il a quand même été pas mauvais. Et si les joueurs n'avaient pas voulu bosser avec Sampaoli, ils ne seraient pas venus. Donc tu vois, il y a quand même plein de signes qui font dire que pour le moment, en tout cas, ça marche. Est-ce qu'il les épuisera sur la longueur? On verra.
Est-ce que ça fera comme Bielsa? Parce que Bielsa, c'est ce qui s'était passé. Hein. Ils avaient adhéré. Et puis à un moment, en fait, ils ont juste dit, en fait, ouais, c'est quand même fatigant quand même ces entraînements. Et puis du coup, ils ont lâché. Et puis ça.
Je pense que c'est différent. Je pense que Bielsa, sa plus grande erreur est. Et aujourd'hui, tu sais, on parle de Bielsa, mais regardez le classement de Leeds, à un moment, voilà. Je pense que la différence, c'est que Bielsa manque d'équilibre dans ce qu'il propose. Et au championnat de France, quand t'es pas équilibré dans ce que tu proposes tactiquement, tu peux pas durer si tes joueurs ont l'impression de se faire ouvrir à chaque action. Ça fonctionne pas. Aujourd'hui, je trouve que Sampaoli a envie de marquer des buts, mais il a pas envie d'en prendre. Bielsa accepte presque l'idée de prendre des buts si c'est au détriment d'essayer d'en marquer.
Oui, c'est vrai.
C'est quand même deux philosophies très différentes. Et je pense que pour des joueurs, il y en a une qui est rassurante et une qui l'est un petit peu moins.
Ok.
C'est pas faux. Écoutez, c'est une bonne transition hein, puisqu'on va passer du côté de la Première Ligue en parlant de ce choc entre Manchester et Liverpool. On va avoir besoin de ton avis, Mathieu, sur la position de Solskjaer. Vous êtes sur le 97FM dans le RKS Full Time Show. Tout de suite, la Première Ligue.
RKS Full Time Show, la Première Ligue.
Le RKS Full Time Show, chaque lundi à 19h sur RKS.
Allez, ce match de... on disait en off qu'il n'y avait pas de film plus de 18 ans. Pour moi, c'était...
Ah, mais ils se sont fait ouvrir en
c'est
deux.
C'est un truc de fou. 5-0 ouais. À Manchester.
Bon, après, il faut dire que Liverpool est particulièrement une équipe assez impressionnante en ce moment, je trouve.
Non, mais d'accord. Mais tu ne fais pas ouvrir comme ça.
Je suis d'accord. Tu ne me laisses pas finir mon propos.
Je te laisse finir.
Après, est-ce que c'est D'un côté, ce n'est pas un résultat qui m'a surpris parce que Manchester galère depuis quelques matchs déjà. Pas surprenant parce que de toute façon, le recrutement a été certes impressionnant. Mais qu'est-ce que j'ai dit moi quand on a dit Manchester, sacré recrutement, sacré équipe? J'ai dit, bah, il ne manque plus qu'un vrai entraîneur maintenant et ça sera bon. Quoi. Donc moi, je n'y ai jamais cru à Solskjaer. J'y croyais pas plus avec le recrutement. Et au contraire, souvent ça accentue les difficultés d'une équipe hein, d'avoir autant d'individualité comme ça. À côté, moi je suis pas donc moi je suis pas surpris ni parce que Liverpool et Salah marchent sur l'eau en ce moment et c'est tout le contraire de Manchester justement.
Mathieu, qu'est-ce que t'en penses toi? Parce que moi j'arrive pas à comprendre, même si Liverpool est bien au-dessus, que Manchester puisse faire une prestation comme ça, notamment avec des choix forts de pas mettre Paul Pogba. Je le comprends pas, Solskjaer. Ça fait pour moi trop longtemps qu'il est en place. Je sais pas.
Ouais, après, lui, il a une position délicate parce que il aurait pu sauter largement avant. Je suis même pas sûr qu'il avait la légitimité à commencer coach de Manchester comme ça. Au final, quand tu regardes ce qu'il a fait avant,
il n'y a rien.
Aujourd'hui, c'est le protégé de Ferguson et une fois qu'on a dit ça, on peut plus parler de grand chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est pas traité comme n'importe quel coach à Manchester. Donc, déjà, c'est le premier point. Moi, quand je vois hier le gros plan sur Ferguson en train de faire nom de la tête et en train d'être dépité, tu te dis qu'on a peut-être touché les limites. Après, on compare un projet qui est dans une dynamique de stabilité et qui est celle de Liverpool où, à part la saison dernière où ils ont un peu flanché, il y avait quand même une dynamique plutôt forte et positive avec un club comme Manchester qui, on peut dire ce qu'on veut, enfin, ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'ils n'arrivent pas à réellement confirmer, à revenir sur le devant de la scène. Ça fait un peu écho à ce qu'on disait là sur Newcastle qui voudrait du jour au lendemain. Je pense qu'en Angleterre c'est plus dur. Après Solskjaer a peut-être fonctionné comme un joueur aussi en tant que coach. Il a peut-être voulu mettre des joueurs en confiance. Je pense qu'un Pogba, si tu le mets en confiance, mais qu'après, 15 jours après, tu essayes de l'abattre, tu vois, c'est là où un Deschamps, tu sens les années d'expérience et tu sens le vécu. Deschamps, il a jamais fait avec Pogba ce que Solskjaer est en train de faire. Et certains diront, ouais, mais Solskjaer, il va peut-être créer quelque chose, machin. Ben, moi, je pense que la solution, elle se situe entre les deux et qu'aujourd'hui, tu donnes raison à un management, à la Deschamps. Et je pense que Solskjaer, il lui manque trop d'expérience pour répondre au problème qu'il y a aujourd'hui Manchester. Et de lui avoir mis Ronaldo, je ne crois pas que ce soit lui avoir rendu ça.
Ça, c'est sûr.
Voilà.
Tu penses que Ronaldo, ce n'est pas rendre service?
Bah, je pense que quand tu as Ronaldo dans ton équipe et que tu es Solskjaer, je pense que tu as un coach au-dessus de toi. Et le débat est déjà fait au Portugal sur le sélectionneur.
Mais bien sûr, non, mais il a raison.
Un petit peu en dessous. Voilà, donc aujourd'hui, tu as le même avec Pochettino et Messi. Voilà, aujourd'hui, tu mets un mec comme Klopp, un mec comme Allegri, un mec comme Guardiola, ces choses-là n'existent pas très clairement. Donc, tu es sur des coachs très différents. Mais aujourd'hui, face à un Solskjaer, pour moi, l'équilibre, il s'est joué. À mon avis, ce n'était pas la recrue qu'il lui fallait. Et il avait largement de quoi faire devant. Et tu crées forcément des choses. Je me mets à la place de Pogba. Il y a peut-être des moments où il va se dire, attends, t'es en train de me faire passer pour le bouc émissaire, le compte service.
Mais c'est pas la première fois en plus avec Pogba que ça vacille. Il y a eu ça date pas dire que Pogba avait envie de partir aussi. Il y avait un moment, je crois que même quand Solskjaer arrive, Solskjaer veut pas vraiment Pogba, ou du moins il est prêt à s'en séparer même tout de suite quand il arrive. Et finalement, Pogba finit par rester. Là, je pense que Pogba, il est resté aussi parce qu'il a vu qu'une super équipe se montait et s'est dit, bah, moi, si je pars maintenant, en fait, j'ai l'air d'un pingouin. Mais je partage l'avis du coach là-dessus pour moi.
Après, attention à sa décharge aussi. Il n'avait pas des mecs comme Varane. Moi, excusez-moi, Maguire, je trouve que c'est une mascarade. C'est une mascarade, ce joueur. J'ai du mal.
Bah, je sais pas. Moi, franchement, j'ai vraiment du mal avec ce joueur.
Mais moi aussi, j'arrive pas à le situer.
J'ai du mal. On n'arrive pas à le situer parce que pour l'Euro, je crois qu'il est même dans l'équipe type de l'Euro 2020. Il fait un euro très correct. Mais on a l'impression, je sais pas, on ne sait pas si c'est une arnaque ou une référence quoi à ce poste-là. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce mec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, Varane, j'ai jamais pensé que c'était vraiment un très grand défenseur. J'ai toujours pensé qu'il lui fallait quelqu'un de très grand à côté de lui, surtout.
Oh, c'est quand même un bon défenseur, tu peux pas dire ça.
Il est bon, mais il met tout seul. C'est pas lui qui te fait gagner des trophées.
Il est dans les 10 meilleurs défenseurs centraux du monde.
Ben, je sais pas.
Bah, quand même.
Ben, je sais pas, ça dépend. On va voir cette année s'il va être dans les 10 meilleurs du monde avec Maguire qui fait un match sur 10 correctement. Franchement, je te le dis, moi, je me pose des questions. Il y a des défenseurs comme ça, tu leur mettais n'importe quel pingouin à côté, ils étaient bons quand même. On n'a pas tous les cités, on les connaît, mais il y en a, bah, ils ont eu besoin d'avoir quelqu'un de costaud à côté. Hein. Moi, j'ai vu Bonucci avec Essan Chiellini, je peux t'assurer que Bonucci à côté, on en parle beaucoup en bien, et moi, j'en parlerai beaucoup en bien aussi parce que je l'aime beaucoup, mais il y a un Bonucci avec Essan Chiellini. À la Juve. Donc, c'est.
Après, ce qui m'a inquiété aussi, sur le banc, il a quand même laissé des mecs comme Jesse Lingard, Sancho. Je comprends pas pourquoi il fait pas jouer ces mecs-là qui ont été recrutés. Ça me paraît invraisemblable. J'ai l'impression que déjà, il a du mal, mais qu'en plus, il se tire des balles dans le pied tout seul.
Oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison.
Qu'est-ce qu'ils font, ces joueurs sur le banc? Enfin, c'est incompréhensible.
Ouais, après, Melvin, il y a un truc qu'il faut. Enfin, à un moment,
on n'est pas à l'entraînement.
Non, mais il faut mettre des... Non, alors oui, on n'est pas à l'entraînement, mais il faut mettre des mots sur ce qu'est aujourd'hui aussi le foot de haut niveau, et ça se voit aussi des fois en amateur. On n'est pas tous égaux devant le courage, et je pense que Solskjaer aujourd'hui, c'est pas quelqu'un de très courageux, à mon avis. Et les noms que tu as cités, si à un moment, Ronaldo ou un autre, hein, peu importe, je ne dis pas que Cristiano Ronaldo, c'est un problème, mais s'ils sont 3-4 à lui dire « lui, tu ne peux pas le mettre le week-end », moi, je suis sûr que même au niveau professionnel, tu vois des coachs se faire orienter. Donc peut-être que toi, il y a des choix de l'extérieur qui te paraissent invraisemblables, mais si tu as aujourd'hui 3-4 de l'équipe sur qui il compte, qui lui disent « non, on ne le veut pas à côté de nous », on ne l'aura pas à côté de nous. C'est une réalité. Aujourd'hui, dans le football, avant les coachs, si tu as un mec pas très courageux, tu as des présidents qui, des fois, décident plus que des coachs, des agents de joueurs qui décident plus que des coachs, des joueurs qui décident plus que leurs coachs. Et aujourd'hui, si tu n'as pas un coach fort et qui se dit bah, « il vaut mieux que j'aille au bout de mes idées, que je crève avec mes idées parce que mon choix me paraît juste et me paraît être le bon », et qu'au lieu de ça, le gars se dit bah, « écoute, tant pis si c'est moins bon, mais plus longtemps j'ai tous ces gens avec moi et plus longtemps je durerai dans mon contrat et sur mon positionnement », bah à un moment, ça donne des choix qui, des fois, font plus de sens. Et quand on parle d'un Sampaoli, je pense que Sampaoli, demain, il peut mettre et sortir n'importe qui. C'est une nature. Je pense que Solskjaer, déjà lui, de base, il s'est rendu compte que la place était trop grande pour lui. Aujourd'hui, Manchester n'est pas assez stable pour avoir un homme comme ça à la tête de son club. Varane, vous inquiétez pas, la question se posera plus. Il est blessé tous les 3 mois, de toute façon, son corps suit plus. Donc de toute façon, il aura plus de soucis non plus. Aujourd'hui, Manchester ne fera pas sans un vrai manager. J'ai l'impression que même Ferguson pourrait décider avant Solskjaer aujourd'hui. Il est plus filmé dans la tribune que ce que les Solskjaer. Non, mais regardez un match, tu vois plus souvent Ferguson filmé dans la tribune des fois que ce que tu vois Solskjaer sur le banc. Donc, à un moment, c'est un gars qui manque de charisme aujourd'hui pour aller être à la tête d'une équipe comme ça et d'un club comme ça. Demain, tu mets Steven Gerrard à la tête de Liverpool, je te dirais pas la même chose. Mais aujourd'hui, Solskjaer, j'y crois pas, j'ai l'impression qu'il pleure même quand il parle, donc c'est compliqué. Enfin voilà, je le trouve dans une posture compliquée, et pour moi c'est une question lui aussi de semaines, sans préjuger de son travail, mais je pense que la place est trop grande, c'est juste ça. Il faut l'admettre, mais demain, mettre un coach qui remettra de l'ordre là-dedans, bah, bonne chance pour le trouver. Vraiment, bonne chance pour le trouver.
Antonio Conte est dispo.
C'est ce que j'allais dire. Je vois que
ça
Antonio.
Ça marchera pas.
Mais pourquoi ?
Ça marchera pas. Parce que ça marchera pas parce qu'aujourd'hui, quand tu es dirigeant de club et que tu fais des choix et que tu mets du pognon sur des mecs, t'as pas envie qu'on te dise que tu t'es trompé. Donc Conte, il a des exigences. La première, c'est de faire les choses comme il les pense. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui à Manchester, ils ont envie de prendre ce risque-là. Par contre, Conte, tu le mets avec un mec comme Pogba, ouais, moi j'ai aucun doute sur le fait que ça va matcher.
Bah ça a déjà matché. Hein, de toute façon, c'est parce que Pogba serait jamais devenu Pogba sans Conte. Hein.
Mais c'est vrai, mais regarde, à un moment, on y revient toujours. La Juve a bien rappelé Allegri, alors qu'on en entendait des vertes et des pas mûres. Parce qu'à un moment, bah, je suis désolé, mais pour faire le sale travail, entre guillemets, remettre de la stabilité, il faut des hommes de poigne, de tempérament qui assument. Ça veut pas dire
exactement.
Des mecs qui mettent un lien hiérarchique.
C'est vrai.
Et Solskjaer, pour moi, c'est juste qu'il lui manque. Enfin, regardez Klopp sur un banc. Le mec, je sais pas, il me fait rire juste quand je le vois parce que je le sens... Je le sens tellement sûr, tellement bien avec ses joueurs. Je le sens tellement serein, tellement... Solskjaer, il a déjà le poids du monde sur lui avant même que le coup d'envoi soit donné. C'est problématique.
Non, c'est sûr.
Parlons désormais du geste de Cristiano Ronaldo, ce geste d'énervement.
Alors, j'ai envie qu'on fasse presque le débat qu'on m'a proposé à RMC, parce que juste avant l'émission, j'ai RMC quand même qui m'a appelé parce que je suis un peu référencé supporter de la Juve. Alors là, il parlait de Ronaldo, donc il voulait quand même mon avis. J'ai dit que j'étais pas dispo parce que j'étais en train d'être chroniqueur dans la meilleure émission de foot du monde.
Merci.
Donc voilà. Mais on m'a demandé est-ce que Ronaldo a bien fait, c'était en tout cas le débat qui s'est fait aujourd'hui à 19h30 apparemment, est-ce que Ronaldo a bien fait de signer là-bas? Moi, j'adore ces questions à la con, parce que il y a deux mois, on te dit que Ronaldo a pris la meilleure décision du monde, la décision du cœur, la décision de machin, de truc. Tout comme on disait pareil de Ronaldo à la Juve, quand ça se passait mal, on disait toujours est-ce que Ronaldo a bien fait de partir du Real et d'aller à la Juve? Est-ce que Ronaldo fait bien de rester à la Juve, etc. Ces questions à la con, ça m'énerve.
Moi, je retournerai la chose. Est-ce que Manchester a bien fait de prendre Ronaldo?
Bah, si c'était pour garder Solskjaer, comme il a dit, comme l'a dit Mathieu, plus ou moins, c'est pas une bonne idée, ça c'est sûr. Après, le problème, quand tu prends Ronaldo, c'est un mec qui prend tellement d'attention. Et c'est un joueur fantastique, il sait tout faire. Même à son âge, il peut encore débloquer des situations, etc. Mais c'est un joueur où tu n'auras jamais la main. C'est-à-dire, tu peux pas décider de le mettre sur le banc et lui dire écoute Coco, là c'est pas ton jour, aujourd'hui tu vas démarrer sur le banc, et il acceptera jamais Ronaldo d'être au second plan. Il aime trop être la tête d'affiche et donc du coup c'est compliqué, parce qu'à son âge il peut pas jouer tous les matchs, parce qu'à son âge il peut pas être décisif tous les week-ends, et je pense que vraiment prendre Ronaldo aujourd'hui, c'est presque bon pour aucun club, surtout pour les grands clubs qui ont des ambitions, parce que quelque part, il y a d'autres grands joueurs à côté, et du coup, le problème, c'est que tu peux jamais le sacrifier, lui.
Tu veux dire qu'il fait de l'ombre?
Et c'est pour ça que Allegri, l'une des premières choses qu'il a faites quand il est revenu à la Juve là cet été, c'est qu'il lui a dit à Ronaldo, il a dit j'attends que tu sois quelqu'un d'important dans le vestiaire, et que surtout tu montes l'exemple, et que voilà. Et je pense que le discours qui lui a été donné, je pense qu'implicitement il lui a dit ça veut aussi dire que quand je vais te mettre sur le banc, t'as intérêt à pas faire la tronche. Je pense que c'est pour ça que ça a pas fonctionné et que Ronaldo a vite cherché à partir, parce qu'il a vu dans quel sens Allegri voulait l'amener. Donc moi, c'est pour ça que je suis pas triste qu'il soit parti, mais moi je pense que de toute façon il vaut mieux qu'il signe dans un club au Portugal où il sera la seule star, où il pourra personne peut-être pourra le mettre sur le banc, etc. Mais c'est plus pour lui tout ça.
Enfin, moi, je par pense rapport que c'est à son geste. Parce que ça fait polémique, son geste est scandaleux, il aurait dû prendre le rouge. Je pense effectivement que si c'est pas Ronaldo, il prend le rouge.
Oui, peut-être. Oui.
Maintenant, Mathieu, son geste, est-ce qu'il est si grave que ça?
Ouais, franchement, au moment où il le fait, dans le contexte où il le fait, je crois qu'il faut...
Il y a déjà un rouge en plus pour Manchester.
Ouais, je pense qu'il faut plus relever le côté psychologique,
ouais,
que ça révèle.
Moi, je suis pareil.
Moi, j'ai envie de poser la question inverse. Est-ce qu'à travers ce geste-là, il n'a pas décidé de couper la tête à Solskjaer? Enfin, honnêtement, t'envoies un message fort quand même. C'est un mec, on peut lui reprocher plein de choses. On l'a rarement vu péter des plombs. On peut dire ce qu'on veut.
Oui, c'est vrai. Là.
Il a quand même un CV très clean à ce niveau-là. Il n'a pas de casserole au cul. C'est un mec qui semble avoir une éducation et des valeurs plutôt fortes. Aujourd'hui, peut-être qu'il est aussi en train de se rendre compte qu'il avait fait un choix du cœur, parce que je pense qu'il est aussi allé à Manchester pour boucler la boucle et que Ferguson ne doit pas y être pour rien. Je pense que Manchester a fait le bon choix, dans le sens aujourd'hui ces joueurs-là sont aussi devenus des objets de business, et c'est aussi pour ça qu'à à leur âge on les vend encore, parce que Ronaldo ça vend des maillots, ça vend tout ce qu'on veut, ça fait venir des gens au stade. Maintenant, à un moment, quand tu prends un joueur comme ça, la question qui se pose, c'est est-ce que autour de lui t'as les mecs pour le mettre en avant? Et je pense qu'il est frustré aujourd'hui par moment des ballons qu'il reçoit, de ce qu'il voit comme comportement autour de lui. Moi aujourd'hui je trouve qu'on fait un faux procès pour faire croire que le problème c'est lui, alors qu'en fait je pense pas que Ronaldo soit un problème en tant que tel. C'est, on sait dans quelles conditions on vient, on sait comment il faut s'en servir, et peut-être qu'il est aussi déconnecté de ce monde de maintenant où il doit voir des jeunes au comportement qu'il lui comprend pas. Peut-être qu'il voit des gars avec des attitudes qu'il comprend pas, et je pense que Ronaldo est déconnecté du football actuel. Contrairement à Messi qui, lui, est dans sa bulle, je pense que Ronaldo, on oublie un truc, c'est qu'il est très sensible à ce qui l'entoure, à mon avis, beaucoup plus que ce qu'on veut le faire croire. Et je pense qu'il voit des choses la semaine, il sent des choses. Et peut-être que lui aurait pu dire avant le match qu'il redoutait déjà d'en prendre 5 ou 6 parce qu'il sentait que les choses
fonctionnent pas. Ça va être compliqué.
Moi, j'ai juste hâte d'une chose avec Ronaldo, parce que je sais qu'avec Messi, ça n'arrivera pas. J'ai juste hâte de voir s'il finira entraîneur, parce que je suis persuadé, malgré tout ce qu'on peut dire de ce garçon-là, que si un jour il prend ce virage-là, ce sera un des plus grands managers des temps à venir. J'en suis.
Ah, tu vois, c'est marrant que tu dis ça. Convaincu.
Non, mais ouais, si, moi je suis d'accord avec lui parce qu'il a ce leadership, il a cette influence. Mais le problème de Ronaldo, c'est quand même, on peut pas dire qu'il, c'est pas un problème parce que il n'accepte jamais le banc. Alors moi je suis d'accord, c'est un compétiteur, il veut jouer, d'accord, ok, etc. Mais moi je suis désolé, au bout d'un moment, tu dois pouvoir aussi accepter on a l'impression qu'il décide de tout et que personne n'ose ou du moins il laisse personne vraiment derrière, même les joueurs s'exprimer, etc. Moi j'ai vu Dybala, irreconnaissable pendant 3 ans, outre le fait qu'il était blessé tout le temps. Quand il jouait sur le terrain, j'ai l'impression qu'il était perdu, il avait perdu de la magie. Après, je veux dire, t'es censé rendre les gens meilleurs autour de toi quand t'es un bon joueur.
Après ça, Kev, c'est notre discours de gens de bonnes valeurs et de gens qui avons des principes qui nous choquent quand un gars machin, mais sur le fond, qui nous dit que Cristiano Ronaldo, quand il signe là-bas, on sait pas d'avance que ça fait partie de ses clauses.
Mais bien sûr, peut-être.
Cristiano Ronaldo, ils savent tous, si toi tu dis que c'est pas un mec qui accepte ça, ça veut dire que quand ils le font signer, ils le savent.
Oui, tout à fait.
Avant que ça vous coupe la parole, je veux pas vous couper la parole, voilà, vous l'entendez, merci. C'est la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis dans le RKS Foot Time Show. On vous souhaite une bonne soirée, restez sur le 97 FM. Merci coach, merci Kevin, merci à tous, salut, tout de suite, Rake, Rocco, Ante, Anamana. Ciao, ciao, a un paso de la luna.
Si no es muy tarde, ya que